BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, qui vous aide à devenir meilleur investisseur ou meilleure investisseuse. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, de 10h à midi, vous le savez tous les jours, mais également à toute heure du jour et de la nuit en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez de manière délinéarisée, comme on dit. Nous sommes mercredi 17 avril. Au programme du jour, on va parler introduction en bourse. On va parler de la potentielle introduction en bourse de Quanto ou encore de Doctolib. Mais surtout celle de CVC, du private equity qui devient public equity. On va résoudre cette équation avec Laurent Grassin de Boursorama et Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. À 10h30, votre dose d'immobilier avec Nicolas Dose aujourd'hui. Et puis côté bourse, Antoine Larigauderie est déjà connecté depuis Euronext et nos deux traders à suivre pour le match des traders. On vous coach, aujourd'hui on va parler franglais, oui, et on va parler non coté, on va parler private equity. On va faire un lexique du non coté pour tout comprendre sur ce super moteur de performance pour votre argent. Il y a un langage spécifique et beaucoup d'anglais. François-Xavier Sœur, notre CGP du jour, viendra nous traduire. À 11h15, on parlera d'immobilier. Les taux semblent sur une tendance baissière. Est-ce que c'est le moment de concrétiser vos projets d'investissement immobilier ou faut-il attendre? Réponse avec Marie Cœur de Roy et notre invité Stéphane Imovitz. Le question-réponse du jour portera sur les fonds euros. Comment choisir vos fonds euros? Est-ce que 2024 est l'année de la renaissance des fonds euros? Et puis pour finir, vous savez, j'aime les voitures, mais j'aime aussi le vin. Et vous aussi, chers auditeurs et auditrices. Alors aujourd'hui, on va réfléchir à comment investir dans le vin, comment réussir ses placements dans un marché lui aussi orienté à la baisse. Angélique Delanxin d'Ideal Wine viendra nous parler de cet état de marché, des opportunités financières pour vous. Pour vous, justement, qui êtes avec nous tout au long de cette émission, l'adresse c'est direct@bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn, je suis connectée et je vous lis. C'est l'heure de partir rejoindre à Euronext Antoine et ses bretelles.
Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com. Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Bonjour Antoine, on vous retrouve sur un fond un petit peu plus vert qu'hier, même si on est en dessous des 8000 points, on va dire que le CAC les vise à nouveau ces 8000 points.
Oui, ça va franchement mieux hein. Depuis la deuxième demi-heure de cotation, on a un CAC 40 qui gagne 0,77%, qui frôle les 8000 points, 7994 points, et une tendance positive, mais peut-être un petit peu moins infirmée sur le reste des places européennes, plus 0,3% pour le DAX à Francfort. L'Eurostoxx 50 gagne 0,34% à la surperformance du CAC 40, due en grande partie, encore une fois, au secteur du luxe. Les marchés sont rassurés quand même par les chiffres d'activité publiés par LVMH, qui signe une belle progression, un plus 2,8% à 803,90€. Alors, quand on a LVMH qui gagne là, quasiment 3%, évidemment, ça tire le CAC 40 vers le haut et ça le place largement au-dessus des autres indices européens. On a aussi l'ensemble du secteur du luxe hein, qui réagit bien. On a Hermès hein, qui gagne 1,4% à 2321€. Et puis L'Oréal aussi, plus 0,9%, 418,65€. Mais voilà, le sentiment de marché est un petit peu tiraillé ce matin parce que parallèlement, on a de mauvaises nouvelles dans la tech, enfin, de mauvaises nouvelles des nouvelles un petit peu plus mitigées, et notamment du côté d'ASML. Vous savez, c'est le spécialiste néerlandais des machines pour graver les micropuces et les composants électroniques. Ben voilà, rentabilité en baisse, perspective pas très très attractive et prévision d'un chiffre d'affaires stable pour l'ensemble de l'année. Tout ça fait décrocher le titre à la bourse d'Amsterdam et ça handicape un petit peu le secteur techno. Alors, ST Micro signe la plus forte baisse du CAC 40 en début de séance. Là, les choses vont un petit peu mieux. Hein. Le titre se redresse légèrement et gagne 0,2%. Malgré tout, l'ensemble du secteur techno européen n'est pas très très bien orienté. On voit Capgemini perdre 0,5% à 203,90€ ou Dassault Systèmes moins 0,1% à 38,79€. Puis pour vous dire le contraste, on a un CAC 40 qui gagne 0,79%, mais parallèlement, on a un Euronext Tech Leaders qui est un petit peu notre Nasdaq à nous, qui lui perd 0,57%. Donc on sent que le climat est un petit peu plus négatif. Cela dit, pas de quoi entraver la marche en avant des marchés. Il y a deux belles performances aussi. Il y a CGG qui gagne 5% là, 44 centimes. Il y a TF1 qui signe un très bon début de séance et qui gagne 4,2% à 9,12 €. En revanche, c'est moins bon pour De Richbourg qui signe la plus forte baisse du SBF 120. Des prévisions vraiment pas du goût des marchés. Le titre décroche de 4,8% à 4,17 €. Le CAC, donc plus 0,79%, tout juste sous les 8000 points, 7995. Et du côté de l'euro face au dollar, on résiste bien. 1,0630, on est stable depuis ce matin.
On est stable. On va voir ce que ça donne aussi avec l'analyse de nos traders dans quelques minutes. Antoine, merci beaucoup. On vous retrouve à 11h. À 11h, on parlera d'LVMH et d'ASML. On parlera de nos grosses valeurs européennes qui, évidemment, quand elles vont bien, bah, les bourses vont bien. Et quand elles vont moins bien, eh ben, on va moins bien. À tout à l'heure, cher Antoine. Pour l'heure, c'est le moment du journal de votre argent.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et le mercredi, on pique le directeur de contenu de Boursorama qui vient nous éclairer, nous, ici sur BFM Business. Bonjour Laurent Grassin.
Bonjour Lorraine.
Vous nous avez manqué la semaine dernière et ça tombe bien parce que l'actu est dense aujourd'hui. Et on a besoin de vos éclairages, de votre éclairage. D'abord peut-être, on parlait d'LVMH là avec Antoine, oui. Un mot sur la croissance du chiffre d'affaires qui ralentit au premier trimestre.
Qui ralentit au premier trimestre, 3% en organique de mémoire, mais finalement en conformité avec les attentes. Pour 2023, de mémoire, la croissance organique LVMH c'était 13%, donc effectivement je crois qu'au quatrième trimestre c'était 10%, donc ce mouvement-là il était attendu. Finalement, comme il était attendu, le marché réagit plutôt bien. Ce qui est intéressant, Antoine n'a pas précisé, mais ça réagit bien côté LVMH et Hermès, moins côté Kering, puisque on l'avait vu et on le dit souvent quand on parle des valeurs du luxe, quand on est dans le premium, dans le luxe, le super luxe, finalement on résiste bien, voire même les investisseurs sont contents, et on voit que les difficultés de Kering sur Gucci, elles, avaient été sanctionnées. Donc une fois de plus, LVMH est au rendez-vous, pas de mauvaise surprise, donc une bonne réaction des marchés malgré, encore une fois, une normalisation, ce que tout le monde appelle une normalisation du secteur du luxe, c'est de la croissance des ventes dans le secteur.
Normalisation, le luxe et le luxe accessible, on en reparlera dans une dizaine de minutes avec vous Laurent et avec Félix Baron qui va nous rejoindre, parce qu'on parlera de SMCP avec un secteur de l'habillement en crise. Un mot du PIB chinois. Tiens, on revoit toutes les actus, des chiffres importants qui font bouger, qui peuvent être vus positivement ou vus négativement. Vous êtes dans quel camp?
Un peu des deux. Désolé pour cette réponse de Normand. Non, mais ce qui ressort effectivement 5,3% en rythme annuel, à chaque fois on précise, parce que
oui, c'est
important de le préciser, un peu au-dessus des attentes, donc plutôt une bonne nouvelle. Une croissance qui s'améliore depuis trois trimestres. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, quand on rentre dans le détail, et c'est un petit peu le sentiment qui ressort, Lorraine, c'est que c'est une croissance qui est notamment tirée par l'investissement public.
Et oui.
Donc par le gouvernement chinois, pour le dire simplement, alors que par ailleurs la demande intérieure reste un petit peu déprimée. Donc ça veut dire que la cible de 5% de croissance en 2024, elle est atteignable par le gouvernement chinois. Après, les problèmes, les déséquilibres structurels restent en place. D'abord, le manque de confiance des consommateurs. Et ça, à un moment, il va vraiment falloir y travailler. Et ça passera par quoi? Parce que tout le monde appelle de ses voeux, puisque on va parler peut-être aussi des perspectives de croissance du FMI pour l'économie mondiale. C'est cette fameuse grande réforme, ou en tout cas redressement du secteur immobilier qui continue à plomber et l'économie et la confiance des consommateurs. Et tant qu'à un moment, je pense qu'il n'y aura pas ce mouvement fort de la part du gouvernement chinois pour s'attaquer à ce problème-là, on va rester sur peut-être une croissance effectivement qui peut tenir, peut-être même des marchés qui peuvent rebondir, mais on va toujours être dans le doute, toujours dans l'appréhension de la pérennité de ce rebond et économique et financier.
Le MSCI China qui est au plus bas depuis 15 ans, peut-être un point d'entrée ou pas. On continuera
En fait, je pense que c'est encore un peu tôt. C'est-à-dire que toutes les incertitudes ne sont pas écartées. Et tant qu'on est dans cette position un petit peu grise, c'est compliqué de revenir sur le marché chinois.
Un dernier mot, on fait à l'envers. On est parti de la France vers l'étranger. Et maintenant, on finit avec les US, avec le sujet de la croissance et peut-être un petit peu trop de chaud du côté des États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont en surchauffe?
Alors, c'est ce que nous dit le chef économiste du FMI, le FMI a actualisé ses prévisions de croissance pour effectivement cette année à l'année prochaine. Ça augmente effectivement aux États-Unis, puisqu'on est passé, je crois, si je regarde mes notes, de 2,1 à 2,7. 2,7% de croissance, c'est pas non plus. incroyable. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'économie américaine reste très bien orientée. Faut quand même, Lorraine, quand on se replace un petit peu, là aussi, l'année dernière, on est passé de « Ah mon Dieu, est-ce que l'atterrissage en douceur est possible ? Est-ce qu'on n'aura pas un atterrissage dur ?» à « Finalement, l'atterrissage en douceur est possible ?» à « Finalement, il n'y aura pas d'atterrissage. » Et finalement, maintenant, on s'inquiète, est-ce qu'on n'aura pas trop de croissance ? Incroyable. Donc non, mais encore, la résilience de l'économie américaine est assez impressionnante. On a eu, début de semaine, les ventes au détail, 0,7% en mars, avec des ventes déjà révisées à la hausse en février. Donc on voit effectivement que pour le moment, l'économie américaine se porte bien, avec forcément le corollaire, c'est « Ah mon Dieu, si l'économie américaine se porte bien, mais quelle raison donc la Fed aurait de baisser ses taux ?» D'autant que l'inflation, elle, eh bien, ça va mieux, mais elle reste un petit peu résistante sur certains aspects. Donc en tout cas, parler de surchauffe, ça me semble un petit peu fort, parler d'une économie qui se maintient très bien, et ce qui est quand même, ne boudons pas notre plaisir, ce qui est quand même pour l'économie mondiale un bon signal, ça c'est évident. Peut-être aussi, Lorraine, si vous me permettez, dans ces chiffres, ce qu'on retrouve aussi malheureusement, c'est que une fois de plus, la zone euro reste à la traîne, hein, avec des chiffres extrêmement bas. Côté allemand. Côté français, le FMI nous promet 0,7% de croissance cette année. C'est en dessous des prévisions du gouvernement. Avant un rebond de 1,4% en 2025. Enfin, plus 1,4% en 2025. J'ai pas eu le temps de creuser, mais il faudra quand même qu'on se pose la question. La Russie, 3,2% de croissance attendue en 2024. Donc, au moment du conflit avec l'Ukraine, des sanctions et autres, on voit que l'économie russe reste en croissance. Je pense que ça vaudra le coup de s'interroger sur ce chiffre qui a finalement été assez peu commenté.
La Russie, 3,2% de croissance, on en
attendu,
parlera...
Attendu, par le FMI.
On pourra en reparler la semaine prochaine quand vous reviendrez, pardon, cher Laurent. Merci beaucoup pour ce regard sur l'actualité et ces nuances. Vous restez avec nous, Laurent. On vous retrouve dans moins de 10 minutes. On va parler IPO, rumeurs sur l'entrée en bourse peut-être de Doctolib, de Conto, mais surtout, eh bien, CVC, hein, qui passe du private equity au public equity. On en parle dans quelques minutes. Mais avant ça, on passe une tête chez nos traders.
Tout pour investir. Le match des traders.
Les niveaux techniques à surveiller aujourd'hui avec Romain Daubry d'une part et Antoine Fraissoulier de l'autre. Bonjour messieurs. Romain.
Bonjour.
Nous allons démarrer avec vous. Vous nous disiez en préparant cette émission, c'est qui tout double ? Soit on double la mise, soit on reste là où on est. Expliquez-nous votre sentiment sur ce que fait notre CAC 40 aujourd'hui ou ce qu'il pourrait faire.
Bonjour Lorraine, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, on évoquait ensemble la semaine dernière un petit peu de pression baissière et puis des cibles graphiques situées à 7981 points sur le futur CAC 40. On est allé les chercher, on a oscillé depuis quelques heures autour de ce niveau-là. Ouais. Et effectivement, l'enjeu maintenant, c'est de voir si on résiste et qu'on repart à la hausse, ou en tout cas qu'on stabilise sur ces niveaux-là, ou qu'on double le score baissier pour aller chercher des extensions un peu plus basses. Il faut dire que c'est une semaine. Alors effectivement, il y a un petit peu de mieux aujourd'hui avec les publications d'LVMH qui permettent à l'indice de rebondir. On voit que c'est un peu mitigé d'ailleurs au sein du secteur du luxe, puisque effectivement Hermès se porte bien, L'Oréal rebondit un petit peu. On voit que Kering reste dans le rouge quand même. Donc toujours cette ambiance au stock picking qui est prioritaire, et puis une saison des publications qui va être déterminante. Reste qu'on est au cœur d'une semaine d'échéance technique, l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril, qui se tiendra donc vendredi, et ça peut fausser les mouvements, puisque les arbitragistes qui n'ont pas d'intérêt directionnel particulier sont en revanche contraints d'équilibrer leur position au débordement ou à la rupture de certains niveaux techniques, ce qui peut amplifier des mouvements. Donc ça, c'est une contrainte à prendre en compte. Si on regarde du côté du futur CAC 40 et des futurs en général sur l'Eurostox, on a un intérêt qui est moyen, avec toujours un petit solde vendeur, mais une position ouverte moyenne qui est inférieure de 22% à ce qu'on connaissait au cours des trois dernières années sur l'Eurostox. Donc il n'y a pas de signaux forts de ce côté-là, un petit solde technique vendeur, des initiatives qui sont en retrait, ça veut dire qu'on n'a pas de pression baissière majeure, ni d'achat fort sur ces niveaux-là, des opérateurs qui sont un peu en stand-by. Et puis, en revanche, là où on s'inquiétait d'un ratio de couverture qui était hyper complaisant de la part des opérateurs, les petits warnings géopolitiques, enfin les gros warnings géopolitiques des derniers jours ont permis à la volatilité de remonter, aux opérateurs de se couvrir à nouveau, et donc d'équilibrer et de limiter le mouvement et l'accélération baissière. Par ailleurs, on a beaucoup de cash disponible, on le sait, et il y a un consensus quasi unanime qui voudrait un repli complémentaire pour acheter sur repli, et on voit qu'on a du mal à accélérer à la baisse. Alors, Sur le futur CAC 40, ça se traduit par un trading range situé en bas sur le futur avril à 7935. En haut, c'est 8121. Tant qu'on est entre les deux, on reste baissier majoritairement, mais avec donc des éléments canalisés. Sous ce niveau-là, la cible, c'est 7817, puis 7664, futur avril, encore une fois, ce qui serait notre niveau de retracement idéal et un point d'entrée parfait. Encore une fois, dans ce contexte, ça semble difficile à mettre en place, mais c'est possible. En revanche, si on repasse 8121, on neutralise le mouvement baissier et ce jusqu'à 8242. Je suis pas certain qu'on ait les drivers pour remonter dans l'immédiat, aller chercher ces niveaux-là tout de suite. Maintenant, ce qu'on va observer à très court terme sont les chiffres de l'inflation aujourd'hui à 11h, le discours de Christine Lagarde ce soir. On a 5 valeurs du CAC 40 qui publieront demain, ça va être une journée importante à Paris. Et puis l'échéance technique des marchés dérivés vendredi qui sera un pivot comme toujours. Et c'est surtout la semaine prochaine que les publications des grosses valeurs américaines vont commencer. Et donc ce sera, à mon avis, le pivot et le moyen de décider entre ce qui tout double.
Voilà, le court et moyen terme. Merci pour l'agenda, cher Romain. Antoine Fraissoulier de l'équipe eToro, comment envisagez-vous la journée ?
Oui, alors effectivement, la journée, elle est plutôt positive. Hein. Comme disait Romain, on a LVMH hein, qui est publié ce matin. Des chiffres plutôt moyens et finalement, ça rassure les investisseurs. Et LVMH reprend 3%. Donc ça permet à notre CAC 40, alors moi je suis sur le cash, hein, le cash, donc le CAC 40 redépasse les 8000 points. Mais souvenez-vous, Lorraine, on avait parlé d'un niveau la semaine dernière, on avait parlé de la zone 7900, 7930. Et mardi matin, l'ouverture, le CAC a fait 7900 points tout rond. Et comme par hasard, j'ai envie de dire, il a rebondi sur ce niveau. Donc maintenant, il oscille entre 7009 et 8000. Alors là, ce matin, on déborde les 8000 points puisqu'on est à 8008 points. Mais effectivement, alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est la correction qu'il y a depuis donc le 2 avril. Le CAC a perdu 4,25%. Donc on a quand même une correction qu'on n'avait pas vue depuis 5 mois. On attaque donc ce mois d'avril baissier. Hein, ça fait, on est depuis le mois de novembre hein, qu'on monte hein, sur le CAC 40. Et c'est bien logique, j'ai envie de dire, assez sain finalement qu'on ait cette correction sur les indices en général. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait aller plus bas ? Est-ce qu'on pourrait casser ces 7900 points ? Il faudrait que des catalyseurs assez négatifs, on a quand même pricé plutôt des mauvaises choses. Alors ce sont les earnings, hein, c'est-à-dire les publications de résultats d'entreprise qui vont driver sur les prochaines semaines. Si on a des déceptions, ça pourrait hein, poursuivre la baisse. Mais on voit que si finalement les résultats sont conformes, s'il y a finalement, si les investisseurs sont rassurés, eh bien on pourrait, pourquoi pas, retrouver les plus hauts. Puisqu'il ne faut pas oublier que la tendance est haussière et qu'on est dans un marché assez boule. Donc peut-être qu'on a déjà vu le point bas de la correction. On verra par la suite, mais on y reviendra.
Peut-être qu'on a déjà vu le point bas. Merci beaucoup Antoine Fraissoulier de l'équipe d'Itoro. Merci Romain Daubry de l'équipe de Bourse Direct d'avoir été avec nous au décryptage. Eh ben, on se retrouve dans une semaine, on fera le bilan. Et puis d'ici là, vous savez, le match des traders, c'est tous les jours vers 10h15 sur notre antenne pour décrypter la séance en cours du côté du CAC 40. C'est l'heure de parler de votre argent, de vos finances personnelles en équipe.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
L'équipe du mercredi est réunie, presque au complet. Laurent Grassin de Boursorama est de nouveau avec nous. Rebonjour, cher Laurent.
Rebonjour, Laurent.
Nous avons Félix Baron qui parle la magie des ondes depuis la Suisse est avec nous. Félix Baron, fondateur du Club des investisseurs indépendants. Et puis on l'a fait venir un peu plus tôt, François-Xavier Seur. Notre CGP du jour, Terrail Patrimoine avec nous. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Lorraine.
On a un gros programme. On va commencer, si vous voulez bien, avec vous, Félix. On va parler de CVC. De CVC, vous allez nous rappeler ce que c'est CVC, qui est ce personnage luxembourgeois. Et on va parler d'une mutation du private equity au public equity. Racontez-nous la potentielle entrée en bourse de CVC, s'il vous plaît.
Oui, CVC, un des plus gros fonds d'investissement du monde, 186 milliards sous gestion, à peu près 116 milliards en private equity et le reste qui se partage entre le secondaire et le marché des activités de crédit. Et CVC prépare une introduction en bourse à la bourse d'Amsterdam, donc c'est très bien pour profiter du drain de liquidité européen. Mais ce qui pose un peu la question, c'est que CVC, c'est une machine à lever du cash. Elle a levé 59 milliards depuis 2022, en deux ans. Et là, tout à coup, CVC aurait besoin de la bourse pour lever 1,25 milliard d'euros. Donc, je me pose quand même des questions. En réalité, CVC va émettre seulement pour 250 millions d'euros de nouvelles actions. Donc, c'est même pas une introduction en bourse pour lever des fonds, c'est une introduction en bourse pour amener de la liquidité. Et la liquidité, elle va bénéficier en fait, à des actionnaires historiques, donc GIC, KIA et Stratosphere, c'est trois fonds souverains donc à Singapour, au Koweït et à Hong Kong qui détiennent ensemble 18% de CVC et qui devraient pouvoir liquider leur plus-value avec cette IPO. L'actionnaire Blue Owl qui lui veut rester au capital va monter de 8 à 10% et vous aurez toujours 75% du capital détenu par les associés et les salariés de CVC. Donc, vous allez avoir 85% du capital qui sera pas flottant, qui sera verrouillé. On peut vraiment se demander à quoi va servir cette cotation. L'avantage, quand on met en bourse une société de gestion de fonds, de private equity, c'est que le business est assez prévisible. On peut prévoir les revenus. Avec les commissions de gestion qui sont perçues par la société, on sait que c'est à peu près 1,917 milliard de fees perçus par CVC. Et si on compare aux autres fonds qui sont rentrés en bourse, pour les géants comme KKR, comme Blackstone, Carlyle, ça s'est bien passé depuis 10-15 ans. Pour Altamir, la partie cotée du fonds français Apax, ça se passe pas mal aussi, mais plus récemment, les IPO de fonds comme Bridgepoint ou Antin, ça s'est assez mal passé. Ils ont perdu la moitié de leur valo depuis l'IPO de 2021.
Laurent Grassin, réaction à ce que nous a dit Félix.
Oui, c'est vrai. Alors Didier, le private equity devient public. Donc disons que effectivement, ce sont des sociétés cotées spécialisées dans le private equity. D'ailleurs, vous allez me dire, je suis un monomaniaque des trackers, mais il y a des ETF qui suivent ces compagnies si vous voulez pouvoir vous exposer sans forcément rentrer sur une société en particulier. Félix a bien résumé. CVC, à la base, c'est une spin-off de Citigroup, puisque CVC, c'est Citigroup Venture Capital. Ils sont séparés en 93. Effectivement, gros acteurs du private equity. Présent peut-être pour les gens qui nous regardent et qui se disent ça me dit pas forcément grand-chose. Ça dit beaucoup plus quand on sait qu'ils sont très présents dans le sport, les licences sportives, notamment avec la Ligue française professionnelle. Voilà, ils ont été. Je crois qu'ils l'ont vendu, mais ils ont été dans la Formule 1, ils ont été dans le MotoGP, ils sont aussi dans le rugby. Voilà, ils détiennent aussi Panzani. Donc déjà tout ça parle plus. On voit quand même, et je pense qu'on pourra avoir un complément. On voit qu'il y a aussi un mouvement de consolidation dans le secteur du private equity. La prime va quand même un peu au plus gros. C'est vrai que les grosses machines EQT, le suédois ou encore Blackstone ont des parcours en bourse depuis 5 ans qui sont extrêmement satisfaisants. Donc Félix l'a précisé, peu de flottant côté Amsterdam. Ça vaut quand même peut-être le coup de regarder le dossier.
François-Xavier Seur, notre CGP, est là. On a prévu de parler de private equity avec vous dans le coach. Dans un gros quart d'heure, on va surtout parler franglais, puisqu'on va faire un coaching. Donc, on va aider nos auditeurs à déchiffrer les termes anglais qu'on utilise parfois sans forcément comprendre la profondeur de signification en français. Votre regard rapidement sur CVC qui pourrait rentrer en bourse.
CVC, c'est typiquement, on ne va pas dire une fausse introduction en bourse, mais c'est avant tout de la liquidité, comme le disait très justement Félix. C'est-à-dire qu'avant, on introduisait des petites sociétés qui allaient en bourse pour lever des fonds. Or, maintenant, il y a des sociétés de plus en plus grandes qui s'introduisent en bourse et qui vont en bourse pour aller chercher la liquidité et pour permettre aux fonds de sortir et d'obtenir justement cette liquidité et de réaliser les plus-values. Donc, CVC, en fait, va apporter de la liquidité à ses actionnaires, va avoir une valorisation en continu grâce à la bourse, mais ne va pas chercher de fonds. Donc, c'est aussi un nouveau paradigme au niveau de la bourse et de cette relation entre public equity et private equity, avec le private qui prend de plus en plus de place.
En parlant d'entrée en bourse, qu'irait chercher Conto et Doctolib de notre licorne en se mettant sur les marchés cotés? Félix, votre regard sur ces rumeurs d'entrée en bourse?
Des rumeurs, c'est les deux sociétés ont annoncé qu'elles se préparaient éventuellement à entrer en bourse d'ici 2025. J'ai bien peur qu'il y ait un petit peu la même tentation que pour CVC, c'est-à-dire d'aller chercher de la liquidité auprès du grand public. C'est beaucoup plus difficile de lever de l'argent auprès des institutionnels, auprès des fonds de capital risque ou des fonds de capital développement depuis 2 ans. Mais il se trouve que Doctolib et Conto, c'est des sociétés qui sont valorisées des milliards, c'est des licornes, on parle de ça, mais qui doivent quand même à un moment pouvoir garantir de la liquidité à leurs actionnaires. Et le seul moyen de le faire aujourd'hui, ça va être d'aller chercher de la liquidité du grand public. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit ces sociétés, c'est des licornes, elles gagnent pas d'argent, mais elles valent des milliards. le message va être plus compliqué qu'on va devoir dire à des gens particuliers, des actionnaires individuels, on veut des milliards, mais on gagne pas d'argent. Donc aujourd'hui, j'ai essayé d'estimer des chiffres sur Doctolib et sur Conto. Il y a à peu près 350 000 utilisateurs pro de Doctolib en Europe. C'est eux qui payent, avec un abonnement en moyenne que j'estime à 115 €. Ça fait à peu près 490 millions de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est assez gros, hein, quasiment un demi-milliard de chiffre d'affaires. Est-ce que ça justifie une valorisation entre 4 et 5 milliards, hein, ce qui est annoncé? On ne sait pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'en dit le patron Stanislas Ringsiato dans une interview fin 2023. Il vise la rentabilité début 2025, et puis toujours, et ça c'est intéressant, toujours plus d'intégration dans la plateforme, une intégration plus poussée, des outils de coopération entre soignants, des enregistrements en ligne pour les patients, la possibilité aussi de payer en avance. On parlera peut-être de la taxe lapin, la possibilité de donner aussi des outils de prévention. Donc ça pourrait amener de la valeur dans les projets. Et un mot sur Conto. Conto, pareil, 450 000 clients en Europe. Difficile d'avoir des chiffres sur Conto. J'estime le chiffre d'affaires à 750 millions. Mais je dis bien chiffre d'affaires et je parle pas de produits nets bancaires.
Oui.
Conto, c'est très compliqué à valoriser parce que c'est absolument pas une banque. C'est un établissement de paiement. Conto propose des crédits à ses clients, mais via des partenaires. Donc, elle a pas de revenus liés aux produits d'intérêt, aux commissions sur des opérations de dépôt ou de crédit. Elle fait pas de trading non plus. Ce qui est sûr, c'est que si elle veut rentrer en bourse, elle va devoir présenter des garanties très élevées de sécurité en tant que dépositaire des comptes de ses clients. Là encore, deux ambitions à voir. Attention quand même à la tentation de la liquidité, parce que on a en tête l'exemple de Believe, licorne qui est rentrée en bourse et qui vient d'en sortir.
Attention à la tentation de la liquidité, Believe, dont on a documenté la sortie. Laurent, votre regard sur ce que vient de nous dire.
Oui, c'est très bien résumé. On a déjà parlé des introductions, et forcément, quand on est directeur des contenus de Boursorama, on aime les sociétés cotées. Mais on aime bien aussi les investisseurs particuliers. Et trop souvent, l'investisseur particulier, c'est un peu celui qui reste sur le carreau parce que les valorisations d'introduction sont souvent un petit peu hautes, un petit peu en surpromesse. Et puis, je vais pas vous ressortir ma stat. Je l'ai plus en tête. Donc voilà, et je l'ai pas actualisé surtout parce que c'est important de l'actualiser.
Vous parlez de la stat Vernimmen?
Ouais, exactement. Comme elle date de 2022, qui était une année un peu compliquée sur les marchés, je me suis dit il faudra faire ce travail. Je vous amènerai une stat actualisée. Mais on voit quand même souvent que les introductions arrivent avec des cours trop élevés et que derrière c'est de la perte. Et c'est effectivement une paume qui est souvent du côté des particuliers qui arrivent. Donc il y a deux stratégies. Soit effectivement vous êtes prêt à jouer peut-être un aller-retour très rapide sur l'intro, en vous disant ça peut peut-être marcher sur la première, sur les premières deux séances, pourquoi pas? Alors là, vous prenez votre risque parce que ça peut ne pas se concrétiser. Soit vous croyez dans le business model parce que vous dites quand même, on est quand même un sacré paquet de gens à aller sur Doctolib pour prendre un rendez-vous médical. Donc il y a quand même un vrai premium sur cette plateforme qui a réussi quand même à créer quelque chose qui est extrêmement structurant dans le domaine médical. Donc vous dites ok, il y a quelque chose. Vous êtes long, mais vous avez peut-être le temps de vous positionner, d'attendre la première évolution du titre et puis de voir comment tout cela évolue.
Messieurs, je vous rappelle cette statistique. Vous aviez pollardé la lettre Vernimmen, Laurent, ce qu'on essaye de faire assez souvent, parce qu'elle est fantastique cette lettre. D'ailleurs, vous pouvez vous y abonner, cher auditeur, si vous n'êtes pas déjà abonné, la lettre Vernimmen. Vous nous rappeliez que sur 139 introductions en bourse depuis 2014, 77 avaient un cours inférieur à leur prix d'introduction.
Voilà, mais c'était en 2022.
Voilà. Donc
il faut l'actualiser, il faut voir où on en est. Je crains que ce ne soit pas fondamentalement différent.
Mais... Bon, alors pour mercredi prochain, la promesse, c'est parler de la croissance attendue de la Russie, de mettre à jour ce chiffre
Je repars avec des devoirs.
Avec cette mise à jour du chiffre fournie par la lettre Vernimmen. Et puis, rendez-vous mercredi prochain. Merci messieurs pour ce décryptage. Merci Laurent Grassin de Boursorama. Merci Félix Baron avec sa capacité à calculer les valorisations des boîtes.
Il est souvent en Suisse, il ne nous ramène jamais du chocolat, Félix.
Hein. C'est vrai, donc, votre devoir, Félix, la semaine prochaine, c'est nous ramener du chocolat, si vous voulez bien. Pour nous et toute l'équipe.
Je note ça dans ma tablette pour mercredi.
Et puis, on va le faire bosser, François-Xavier Sœur, notre CGP du jour. On va parler franglais avec vous, on va parler private equity, on va revenir sur le lexique franglais. Alors, au-delà de la légèreté d'évoquer le fait qu'on parle en franglais, on va revenir sur les bases du private equity et pourquoi vous, en tant que CGP, c'est un produit, une méthode, un endroit où vous allouez de plus en plus d'argent de vos clients, et vos clients aussi, ils ont des questions.
Tout à fait. Bon, on a parlé de Conto, on a parlé de Doctolib. Je recommande beaucoup les fonds de Razéo, et Razéo est dans ces ces deux sociétés. Donc c'est vrai que cette introduction en bourse pourrait amener un petit peu de liquidité à certaines des positions de mes clients et des miennes.
La tentation de la liquidité. A tout de suite, après une pub, Nicolas Dose arrive dans quelques secondes pour parler immobilier. Attention, à tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Votre dose d'économie avec Nicolas Dose. Bonjour cher Nicolas.
Bonjour.
Nous allons parler d'un orage qui s'éloigne sur le crédit immobilier. Vous avez décortiqué la publication de Crédit Logement CSA qui voit revenir les emprunteurs au premier trimestre. Est-ce que l'orage est derrière nous?
En tout cas, le pire semble passer pour les taux. Je me souviens, on avait fait une chronique qui n'était pas très convaincante au mois de janvier parce que je disais, ça y est, la colline est passée. La décrue des taux est entamée.
Ouais.
Je faisais du chiffre. Sur 20 ans hors assurance, on passait de 4,24 à 4,23. On m'avait dit, pipo. Eh ben oui, il y a bien un moment, il faut le passer, ce sommet de la colline, pour pouvoir redescendre. Et donc là, hors assurance sur 20 ans, on est tombé à 3,8% fin mars. Donc c'est quand même une belle décrue. Et donc la baisse des taux se confirme. Quand les taux baissent, ça veut dire que l'argent est moins cher. Quand l'argent est moins cher, ça veut dire que le pouvoir d'achat de l'emprunteur remonte. Alors attention, on n'est pas dans les années folles 2021. J'ai regardé, là, pour un couple qui a 4 200 € par mois, en 2021, il pouvait emprunter 300 000 €. Et là, aujourd'hui, en imaginant avec un taux à 3,5, il se limitera à 240 000 €.
Oui.
60 000 € de moins. Mais ça repart à la hausse. Et donc, les résultats du premier trimestre de Crédit Logement CSA sont époustouflants. La production de crédit immobilier sur 3 mois comparé aux 3 mois précédents, fait plus 52%. Et le nombre de prêts accordés augmente sur 3 mois au premier trimestre de 46%. Je dis bien sur 3 mois par rapport aux 3 mois précédents.
Oui.
Car si on regarde sur un an, on est quand même toujours sur un niveau négatif, tant la chute, évidemment, a été historique. Parce qu'en 2003, on a quand même connu les plus bas depuis 10 ans, nous rappelle la Banque de France. Mais il y a quand même des chiffres spectaculaires. C'est spectaculaire pour le premier trimestre.
Mais comme diraient certains auditeurs qui nous suivent et qui ont connu d'autres crises immobilières, il y a 10 ans, c'était pas si mal. Il y a 15 ans, c'était pas si mal non plus d'emprunter. Bon bref, est-ce que, selon vous, on va vers une reprise forte et rapide?
Alors, forte et rapide, non. Mais objectivement, rien ne laisse imaginer que cette tendance à la baisse des taux ne va pas se poursuivre. Et elle ne semble pas menacée. En tout cas, Crédit Logement, ça se mouille un peu. Ils nous disent qu'au train où vont les choses, sur 20 ans hors assurance, on sera à 3,3% fin 2024 et à 2,75% fin 2025. Je vous rappelle quand même qu'on a connu des 4,5. Hein. 4,5. Voilà. Alors, il y a un juge de paix dans cette licence à la Banque Centrale Européenne, sauf accident, il est très vraisemblable qu'elle va bel et bien baisser ses taux d'intérêt, et probablement à la date du 6 juin, c'est en tout cas pour l'instant comme ça que les choses se décident. Il ne faut pas qu'on ait un coup dur sur l'énergie et sur le pétrole qui pourrait relancer l'inflation et remettre en cause ce calendrier. Et puis le deuxième arbitre s'appelle les banques. Alors les banques ont toujours des apports, des exigences en apport personnel assez importantes, mais elles espèrent toujours avoir un assouplissement des critères imposés par le Haut Conseil de stabilité financière, organisme de réglementation qui dépend de la Banque de France et notamment de Bercy, qui est présidé par Bruno Le Maire. Pour l'instant, il n'est pas question du côté du Haut Conseil de stabilité financière de modifier le taux d'effort, qui est donc le montant maximum que l'on peut vous prêter par rapport à votre capacité de remboursement, ni de modifier la durée maximum des prêts pour la majorité des prêts. Il y a quelques dérogations possibles, mais on reste sur 25 ans. Alors cette baisse des taux, c'est une très bonne nouvelle pour l'emprunteur, parce que du coup, ça veut dire que la banque est aussi de retour, et donc l'emprunteur retrouve une marge de négociation. Parce qu'on sait très bien en fait que les crédits IMO sont des produits d'appel pour les banquiers.
Absolument.
Et donc il y a une vraie concurrence qui existe, il faut faire jouer la concurrence. Après, la baisse des taux, si elle se confirme et si même elle s'accélérait, il y a aussi un gros inconvénient. C'est que si les taux baissent vraiment, eh bien la baisse des prix sera moins évidente et ça freinera la baisse des prix automatiquement.
Voilà, ces éléments qui indiquent quand même que la crise du logement... ça pèse.
Il y a deux crises. Il y en a une où ça va beaucoup mieux sur l'immobilier. Vraiment beaucoup mieux, c'est très clair. On a quand même des prix qui ont baissé, qui étaient complètement anormalement élevés, qui dans certains endroits le restent, bien évidemment. Mais le choc de la construction, il est bel et bien là, et là, ça ne s'améliore pas. En fait, côté demande, vous regardez l'immobilier, on peut se dire que, on va regarder les transactions.
Ouais.
Je ne pense pas qu'on va retrouver le 1 200 000 transactions, bien sûr, puisque sur un an, on est sur une baisse de 22% et on est autour des 870 000 transactions. Mais probablement que ça va repartir. Il faut regarder les transactions, d'ailleurs, et la durée des transactions. Est-ce qu'on est sur au-dessus de 100 jours, moins de 100 jours, voilà. Parce que ça a eu tendance à réussi à s'allonger considérablement. Quand vous regardez du côté offre, le choc de la construction, il est bel et bien là. J'ai regardé les chiffres ce matin des permis de construire et des mises en chantier. Allez, je vous donne juste les permis de construire. En février 2024, on est à 365 000 permis de construire. En 2018, à la même époque, on frôlait les 500 000. L'écart est juste colossal. Et sur les mises en chantier, c'est pareil. Et surtout, derrière la chute des permis de construire, la chute des mises en chantier, on voit s'allonger la liste des suppressions d'emplois dans le secteur. Donc là, on a vraiment un choc dur sur l'offre. C'est la particularité d'ailleurs de cette crise du logement, comme on dit, c'est qu'on cumule le choc d'offre et le choc de demande. On va dire que le choc de demande commence à s'apaiser, mais le choc d'offre est toujours là. Le secteur espère que dans le texte de loi promis par le gouvernement sur le logement avant l'été, il y aura des mesures. Ce sera sans doute très technique. Je sais qu'ils sont demandeurs de mesures fiscales. Je ne suis pas certain qu'au moment où on baisse la dépense dans tous les sens, y compris la dépense fiscale, il soit très, très écouté sur d'éventuelles mesures fiscales et évidemment en tête de liste le soutien à l'investissement locatif dont l'arrêt de mort a pour l'instant été gravé dans le marbre.
C'est au moins le retour de l'emprunteur. Merci Nicolas pour cette séquence à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques secondes sur notre site web et application et puis sur YouTube si vous aussi voulez participer à la discussion. Je vous précise que dans une grosse demi-heure, ce sera notre séquence quotidienne immobilier. Nous parlerons du timing. Est-ce que c'est le moment de concrétiser vos projets d'investissement immobilier, sachant que la baisse des taux effectivement semble suivre une tendance baissière. Ou faut-il attendre ? Nous en parlons dans la séquence IMO tout à l'heure. Mais avant ça, on s'occupe de votre portefeuille.
Tout pour investir en portefeuille.
Dans le portefeuille de Jérôme Fauvel. Bonjour, cher Jérôme.
Bonjour, Lorraine.
Fondateur de JF Conseil, qui s'occupe de nous dénicher des jolies valeurs pour regarder de plus près et raconter des histoires d'entreprise. Ce matin, on raconte l'histoire de Jacquet Metal. Ouais, devrait dire Jacquet Metals, parce qu'il y a un S, mais on est en France.
On est en France, oui. Et donc, c'est une société qui a été créée en 1997. Enfin, pardon, pas créée, cotée. En 1997, c'est le leader européen de la distribution des aciers spéciaux, avec une valorisation dans le sens où la société permet de faire des transformations, c'est-à-dire de couper à la bonne distance ou d'abraser. Alors, la société est présente dans 27 pays, avec 123 centres de distribution et avec environ 3300 collaborateurs. Alors, trois marques dans la société, trois marques distinctes. La première, c'est Jacquet, qui fait des tôles inoxydables. La deuxième, c'est Stepper, qui fait des produits longs en acier inoxydable. Et la troisième, c'est IMS, qui a été racheté en 2012-2013, et qui fait en fait des aciers spéciaux et des aciers pour la mécanique. Alors les fonctions support sont centralisées, ce qui fait que en fait il y a des économies d'échelle qui sont chaque fois réalisées au travers des acquisitions. Alors c'est une valeur qui est très sensible au stock, puisque en fait elle distribue, et donc en fait ça implique une certaine volatilité sur les résultats. Il faut savoir que en 2023 les prix ont baissé de 8%. Alors c'est pas tout à fait une vraie valeur cyclique, parce qu'en fait on a souvent tendance à considérer qu'elle est cyclique en ce sens où ses fournisseurs sont cycliques et ses clients sont dans des secteurs cycliques. Moi je pense que c'est une société qui est un peu à la fois de croissance et en même temps défensive, parce que en fait de croissance parce qu'elle a réalisé des acquisitions, de nombreuses acquisitions, au moins une par an depuis 2010, sachant que les années Covid ont été un peu plus calmes, on va dire, les deux années, et que, d'autre part, c'est une société qui a 60 000 clients, dont la facturation est inférieure à 3 000 euros. Et donc, en fait, ça confère un côté défensif en fait aussi à cette valeur, dans la mesure où en fait les clients vont de la grande valeur presque internationale à l'artisan. Alors la société a connu une croissance organique depuis 2016 de 31% pour un chiffre d'affaires en hausse de 54%, ce qui montre bien l'activité de croissance externe qu'elle réalise. Alors en 2023, les résultats ont baissé d'une manière assez significative. En 2022, on avait pratiquement plus de 7 euros par action, de BNA par action, bénéfice net par action, pardon. Et on est à 2,22 en 2023, donc c'est une baisse assez sensible. Néanmoins, c'est toujours profitable et ça a toujours été le cas de la société. Alors, il faut revenir un petit peu à l'histoire. Monsieur Jacquet est présent dans sa société depuis 1980. Il a commencé comme directeur commercial. C'était son père qui a créé la société en 1960 ou 62. Et donc, c'est un homme de terrain. Moi, cette société, elle me fait vraiment penser à Norbert d'Entresangles. Et avec la sortie qui en a résulté il y a quelques années. Monsieur Jacquet dispose actuellement de 43% du capital pour une capitalisation d'environ 400 millions, ce qui veut dire qu'il y a un flottant de 230. La société dispose d'une trésorerie assez importante, hein, 342 millions au 31 décembre de cette année. auquel il faut ajouter des lignes de crédit qui n'ont pas été tirées, donc de l'ordre de 400 millions, ce qui veut dire qu'il y a 700 millions disponibles. Et là, je vais faire la conclusion. Boiron, au mois de janvier de cette année, en fait, a distribué un dividende, ce qui lui a permis de lancer une OPA sur sa société. Et donc, je vous laisse... Imaginez le restant de l'histoire possible sur cette société qui est une société qui a toujours été très rentable, qui distribue un dividende et qui est toujours très très bien gérée.
Rentable, qui distribue un dividende avec la même personne aux manettes depuis les années 80 et on le comprend, un leader européen dans ce qu'on appelle les aciers spéciaux, bien implanté. Voilà, c'était votre coup de cœur du jour. Jacquet Metals, en GPL pour ceux qui nous écoutent à la radio, JACQUET. Merci beaucoup Jérôme Fauvel pour ce regard sur cette valeur française dans notre portefeuille. Vous restez avec nous, on continue de s'occuper de vos finances personnelles, on va s'occuper de private equity, on va reparler peut-être de l'entrée en bourse potentielle de CVC, mais on va surtout vous équiper. On va vous donner le lexique pour comprendre l'univers du non-coté avec François-Xavier Seur dans quelques minutes. À tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
Le coach du Private Equity aujourd'hui, c'est notre CGP François-Xavier Seur. Rebonjour François-Xavier.
Rebonjour Lorraine.
Nous parlions d'actualité avec vous, on débattait de est-ce que l'entrée en bourse de CVC serait une bonne chose et qu'est-ce que ça voulait dire. C'était dans le cadre du talk Tout pour votre argent il y a une vingtaine de minutes, à retrouver en podcast et en replay si le sujet vous intéresse. Mais je voudrais d'abord revenir sur cette volonté qu'on a ce matin de faire un lexique avec vous, un lexique du non-coté, parce que c'est vrai, on parle beaucoup en franglais et parfois c'est bien de revenir à la traduction pour mieux comprendre les principes. Et je précise que cette citation de chronique a été soulevée par un de nos auditeurs.
Oui, tout à fait. Quelqu'un qui m'a contacté sur mon site web, un de vos fidèles auditeurs depuis le début de la saison, pour tout vous dire, qui a été habitué à regarder Nicolas Dose et qui a pris l'habitude de déborder sur votre tranche.
Ah, voilà. Eh bien, on le salue. C'est quoi son nom ?
Jean-Jacques.
Eh bien, Jean-Jacques, on vous salue si vous nous écoutez. Le lexique franglais du non-coté, parce que le non-coté, c'est le private equity. Déjà, ça, c'est un mot en anglais.
Tout à fait. Private equity, donc actif privé, alors actif non coté. En fait, est actif. En fait, pour définir le non coté, on va le définir parce qu'il n'est pas. C'est-à-dire non coté, donc non coté en bourse, c'est ça que ça veut dire. Donc on oppose le private equity et le public equity. Donc le public equity, c'est tout ce qui est la bourse. Et on a tendance à parler du non coté comme étant quelque chose d'uniforme, alors que c'est extrêmement différent, parce que vous pouvez avoir de l'action, vous pouvez avoir de l'obligation, et puis vous pouvez avoir des toutes petites sociétés, des sociétés immenses, extrêmement développées, rentables, et puis vous pouvez avoir donc de l'entreprise, mais vous pouvez avoir aussi de l'hôtellerie, vous pouvez avoir des opérations de marchand de biens, des actifs réels, donc c'est quelque chose
qui est... tech.
De la tech et de la tech, de l'infrastructure, vous voyez, des choses qui sont extrêmement gourmandes en capitaux. Et ça, ce sont des choses que l'on retrouve beaucoup dans le private equity.
Ce qui nous intéresse, c'est que le private equity est un moteur de performance pour nos liquidités. Je le dis en langage un petit peu CGP, mais c'est-à-dire que vos clients viennent vous voir, bonjour, je voudrais me diversifier, j'aimerais bien mettre autre chose de l'argent ailleurs que sur un fonds euro, dont on parlera d'ailleurs dans une heure, par exemple en bourse. Et là, c'est là où vous arrivez en expliquant ce que c'est que private equity. Parce qu'il faut expliquer, parce que le private equity, il n'est pas si populaire dans tous les sens du terme en France.
C'est très américain. C'est une culture très américaine. C'est en train de se démocratiser en Europe. Et c'est un actif qui, oui, va amener de la diversification. C'est un moteur de performance différent. Par contre, attention, le private equity et le non-coté, on renonce à la liquidité. Justement, c'est l'avantage du public equity, c'est l'avantage de la bourse. C'est que la bourse, demain, vous voulez sortir d'une grosse action, vous voulez sortir d'une société du CAC 40, vous en sortez en quelques secondes. Vous voulez sortir d'une obligation cotée, parce qu'on oublie aussi toute la partie obligataire.
Absolument.
Vous en sortez en quelques secondes. Vous voulez sortir d'une action ou d'une obligation non-cotée, vous ne sortez pas. Ou alors vous trouvez un acheteur et vous trouverez un acheteur qui va vous le racheter avec une grosse décote. Ça, c'est ce qu'on appelle le secondaire.
Voilà. Attention du coup à cette disparition de liquidité. Mais bon, qui doit faire partie d'une stratégie ?
Et en contrepartie, normalement, si on renonce à la liquidité, on va chercher justement plus de rendement. Puisque si on accepte d'immobiliser ses liquidités pendant 3, 5, 10 ans, c'est qu'on va chercher justement plus de rentabilité, plus de potentiel. Mais cela dépend ce sur quoi on investit et cela va dépendre du moment de développement de la société dans laquelle on va investir.
Et c'est là où on va parler de différentes stratégies. Parce qu'il y a différents niveaux d'entrée dans les entreprises non cotées, dans les entreprises non cotées. On parle franglais parce qu'on va parler de venture capital, de grosse capital et puis de LBO, décryptage.
Alors c'est le moment où il va falloir s'accrocher au transistor pour suivre parce qu'effectivement donc on a le venture capital. Donc alors venture capital ou VC, vous retrouverez aussi le terme de VC. Vous retrouverez le terme de capital innovation, vous retrouverez le terme de capital amorçage.
Tout ça c'est la même chose.
Tout ça c'est à peu près la même chose. C'est l'idée de rentrer au tout début d'une société. C'est-à-dire vous rentrez dans ce qu'on appelle les premiers tours de table. Les tours de table, quand on parle de tours de table, c'est vraiment l'idée d'aller chercher l'argent. Alors déjà, généralement, au tout début, c'est ce qu'on appelle la love money, c'est aller chercher l'argent de la famille, son propre argent.
Généralement, le perdre.
Voilà, l'argent de ses proches. Et ensuite, on va, quand on est donc ce qu'on appelle une pré-seed ou une seed, donc là, nouveau terme anglais, donc on est une graine ou avant la graine, donc on a ce terme de seed pré-seed, ça veut dire qu'on est en train de structurer sa société, on est en train de lever des fonds justement avec des tours de table pour aller essayer de sortir son premier produit, aller chercher ses premiers clients, mettre en place une équipe, c'est extrêmement important la mise en place de l'équipe, et à partir du moment où on arrive à faire ça, on va commencer donc à être justement cette seed qui éventuellement va rejoindre un incubateur ou un accélérateur. Donc autre terme, alors là pour le coup franco-français, l'idée c'est de se dire qu'à partir du moment où on a réussi à commencer à structurer sa société, eh bien on va pouvoir rejoindre cette petite institution qui est un incubateur ou un accélérateur qui va ouvrir un écosystème à un chef d'entreprise en contrepartie d'une partie de son capital qui va accompagner le chef d'entreprise et la start-up et qui en moyenne fait qu'il y a deux fois moins de faillite. Donc si jamais vous investissez dans une société, dans une start-up qui est dans un incubateur, vous avez deux fois moins de chances de la voir disparaître que si vous investissez dans une start-up qui n'est pas dans un incubateur ou un accélérateur.
Ouais, l'incubateur pour la petite graine, ça limite le risque. Alors on rappelle que l'investissement, qu'il soit coté ou non coté, est évidemment risqué.
Surtout là.
L'objectif du VC, l'objectif de l'amorçage, l'objectif du capital innovation, quel que soit le terme qu'on utilise en anglais ou en franglais, c'est que l'entreprise devienne une scale-up, autre terme en franglais. Bref, que l'entreprise dépasse le stade de la start-up. Et là, on rentre dans l'étape d'après.
Je suis une seed, je scale up pour devenir une série A. Voilà ce que peut vous dire votre neveu, nièce qui s'est lancé dans la start-up.
Globalement, l'ensemble de notre antenne parle de cette manière-là.
C'est pas faux. Et donc, l'objectif, c'est de faire une série A. La série A, c'est la première levée de fonds institutionnelle, c'est-à-dire celle réalisée généralement avec un fonds d'investissement.
Oui.
Et là, le fonds d'investissement, ça va être des levées de fonds beaucoup plus importantes. Là, on parlait de levées de fonds
qui peuvent être d'un million.
Voilà, en dessous d'un million, c'est ça.
En France.
Quelques centaines de milliers d'euros, parfois d'ailleurs avec des fonds d'investissement déjà spécialisés sur ce type de
un petit ticket.
Voilà, des petits tickets, des tickets minoritaires où ils vont accompagner. Mais quand on va devenir une série A, on va lever des tickets donc de 1 million à partir de plusieurs millions d'euros derrière. Et ensuite, donc, on va faire série A et on peut avoir série B, série C jusqu'à la série E ou F. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'univers du growth. Mmh. Donc, le growth capital ou le capital développement, en français, c'est la même chose. Donc, ça, on va dire, c'est la deuxième étape du développement de la société. Ce sont des sociétés, du coup, qui sont en accélération. Et là, on va être sur des sociétés qui sont en hyper-croissance, donc généralement plus de 50% de croissance du chiffre d'affaires par an, qui fonctionnent. Le business model est vérifié et on va aller lancer des nouveaux produits, racheter des concurrents, ouvrir des nouveaux pays. On parlait il y a quelques minutes sur votre antenne de Doctolib, de Conto, c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils sont dans une hyper-croissance, ils vont racheter des concurrents et à un moment, quand il y aura donc c'est ce qu'il y a aujourd'hui, des rumeurs d'introduction en bourse, ils vont peut-être aussi arrêter d'aller faire cette hypercroissance pour commencer à dégager un résultat. Et là, on va pouvoir envisager une introduction en bourse d'une façon sereine, de façon à rassurer les investisseurs et à montrer que ce n'est pas que de la croissance à outrance, c'est aussi une société qui est capable de dégager des résultats pour des investisseurs au capital. Donc ça, c'est le growth capital, qui a un niveau de risque plus faible, donc le venture capital.
Parce que les entreprises sont plus établies, on va dire.
On va dire que c'est le dernier tour de, c'est la dernière levée de fonds avant d'être rentable. Normalement, c'est ça, le growth. C'est la dernière ou l'avant-dernière levée.
La dernière espérée.
Voilà. C'est, parfois, on va trouver un bridge. Le bridge, c'est justement la petite, c'est pas une levée de fonds officielle, on va dire, c'est la petite levée de fonds qui permet de tenir jusqu'à la levée de fonds suivante. Autre terme anglais qu'on retrouve énormément.
Il y a un dernier stade ou un autre point d'entrée, on va dire, dans le non-coté. C'est ce qu'on appelle le LBO. Expliquez-nous cet acronyme, lui aussi, d'un mot anglais, de trois mots anglais.
Le buyout, en fait. Le buyout, le leverage buyout. Alors là, on est dans des sociétés où on n'est pas dans une logique de croissance, on est dans une logique de transmission. Donc soit ce sont des sociétés qu'on va racheter, donc on est au capital d'une société, on lui amène du capital et ça va lui permettre de racheter un concurrent. Ou alors un dirigeant de société qui s'en va et qui veut céder, par exemple, à une partie de son management. Ça s'appelle un MBO, un Management Buyout. Leverage Buyout, leverage, c'est lorsqu'on va mettre de l'effet de levier financier, donc on va mettre de la dette, c'est ce mécanisme que l'on utilise. Donc tout le secteur du buyout, c'est un secteur sur lequel vous avez généralement des sociétés qui sont rentables, qui peuvent être leaders sur leur marché, ça peut être des niches, ça peut être un système d'agrégation où on va créer des leaders, et c'est extrêmement efficace également, mais c'est vraiment un autre stade.
Voilà, le leverage buyout, ou en français, puisqu'on est dans une logique de lexique franco-anglais, ce qu'on appelle le capital transmission. Alors, question ultime pour conclure ce coaching, comment on investit dans le no-coté? Alors, je vous précise que tous les jeudis, nous travaillons sur ces sujets de private equity avec l'équipe de Tudigo, plateforme d'investissement, mais on a envie de parler de nos comptes-titres, de notre PEA, de notre PEA-PME avec vous.
Alors, tout dépend comment vous allez acheter ces titres. Donc, vous pouvez acheter, on a dit, de l'obligataire, vous pouvez acheter de l'action. Et en fait, soit vous connaissez en direct le chef d'entreprise ou l'équipe. Et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait aller voir la société et réaliser directement l'augmentation de capital auprès de la société. Et vous pouvez inscrire les titres dans un PEA, dans un PEA-PME, dans un compte-titres. Ça, c'est la solution, on va dire, la plus directe. Aussi, probablement la plus risquée, d'ailleurs. Il faut faire extrêmement attention. Et bien évidemment, diversifier extrêmement ses investissements. C'est important vraiment d'investir que de petites sommes et une petite partie de son patrimoine lorsqu'on est probablement sur du venture capital dans le cas que je viens d'évoquer. Ensuite, vous allez avoir les fonds d'investissement. Donc les fonds d'investissement généralement distribués par des intermédiaires financiers comme moi, où nous allons recommander des fonds et ça peut être des club deals, ça peut être donc à différents stades. Hein. On a parlé de stratégie buyout, on a parlé des stratégies de growth, on a parlé de stratégie de venture capital. Tout ça sont des fonds spécialisés qu'on va mettre dans une allocation et dans une stratégie patrimoniale. Et enfin, il y a les plateformes de crowdfunding. Les plateformes de crowdfunding qui permettent d'aller acheter, là aussi, des obligations et de l'action directement et qui réalisent un tri en amont. C'est ça qui est intéressant. En fait, on retrouve trois acteurs sur le marché. Généralement, on retrouve les fonds, les business angels. Alors, les business angels sont des personnes physiques qui, généralement, rentrent dans les sociétés et vont les accompagner. Donc, on est sur des investisseurs, mais des investisseurs qui vont accompagner les sociétés. Et les plateformes de crowdfunding. Il faut bien voir que généralement, les multiples et les valorisations ont tendance à augmenter. C'est-à-dire que généralement, le fonds pour une même société va rentrer à une valorisation plus faible qu'un business angel, et un business angel va rentrer à une valorisation plus faible qu'une plateforme de crowdfunding. Le fonds négocie assez fort et amène tout son savoir-faire. Le business angel aussi, l'investisseur de la plateforme de crowdfunding ne fait que mettre ses fonds.
Voilà, trois niveaux d'investissement, beaucoup de clarté. Merci beaucoup François-Xavier Seur, gestionnaire de patrimoine chez Terrae Patrimoine. Merci pour cet éclairage, ces traductions, un petit peu de rappel des bases. Parfois, ça ne fait pas de mal, ce non-coté dont on parle beaucoup dans cette émission, parce que c'est important de parler de ces entreprises qui ne sont pas en bourse ou pas encore en bourse et dans lesquelles, eh bien, vous aussi, vous pouvez vous investir. Vous restez avec nous, on marque une rapide publicité et ensuite, on s'occupe d'immobilier, on s'occupe de fonds euros et on s'occupe d'investissement dans le vin. A tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, Tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, qui parle argent et qui parle de vos placements. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours entre 10h et midi sur BFM Business, mais on est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez en dehors de nos frontières françaises. Le programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier. Les taux semblent suivre une tendance baissière, en tout cas bien entamée depuis la fin 2023. Est-ce que c'est le moment de concrétiser vos projets d'investissement immobilier ou faut-il attendre une baisse plus forte des prix? Stéphane Imovitz du groupe Ikori avec nous et avec Marie Cœur de Roi. Le question du jour portera sur les fonds euro 2024. Est-ce la renaissance de ces fonds? Quelle place dans votre stratégie d'investissement? Romain Joudla de l'équipe Colbert avec nous pour répondre à vos questions. Et puis aujourd'hui, on investira dans le vin avec un angle patrimonial. Comment se construire une cave avec un marché du vin qui lui aussi est baissier, avec une nette tendance baissière? On parlera des bouteilles qui sont parties le plus cher aux enchères cette année. Et puis, comment vous pouvez vous positionner par rapport à cela? Au programme, il y a vous aussi, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre. Merci pour votre soutien. Vous pouvez nous écrire par email. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. Pour l'heure, 11h07, on part à Euronext. Rejoindre Antoine. À Euronext, où Antoine est aux premières loges pour observer un rebond qui s'intensifie nettement à Paris depuis qu'on s'est parlé il y a une heure. On est de nouveau au-dessus des 8000 points.
Absolument, Lorraine. 8017 points, on a une hausse d'1,07%. Et alors, regardez, on fait le double de la croissance sur les autres places européennes. Plus 0,54% pour le DAX à Francfort. L'Eurostock 50, plus 0,58%. Alors, bien sûr, le CAC 40 est soutenu par le secteur du luxe. Hein, sa plus forte pondération sectorielle avec les bonnes nouvelles en provenance d'LVMH, hein, publication des chiffres d'activité hier soir qui sont salués par le marché. Et d'ailleurs, le titre n'en finit pas de grimper. Il gagne maintenant quasiment 4%, plus 3,8%. On est à 811,70 €. Et évidemment, le reste du secteur du luxe est bien orienté, notamment Hermès, plus 1,8%, 2331 €. On a L'Oréal aussi, plus 1,37%, à 420,75 €. En revanche, quelques titres à la baisse à signaler, notamment Téléperformance, moins 1,9%, 87,14 €. On a le secteur techno qui est plutôt pas très bien orienté. Capgemini, moins 0,68%, à 203,50 €. Et Dassault Systèmes, moins 0,33%, à 38,70 €. On est dans le sillage des performances publiées par ASML dans les semi-conducteurs qui baissent de plus de 4% à la bourse d'Amsterdam. On y reviendra dans quelques secondes, mais c'est une dynamique importante qui est à scruter sur les marchés. Plus forte hausse du SBF 120, c'est CGG, plus 4,9% à 44 €. En revanche, perspective décevante pour De Richbourg qui est sanctionné par la bourse ce matin, moins 4,6% à 4,17 €, à signaler Orpea avec un avertissement sur ses résultats. Le titre perd 2%. À 10,95 €, le CAC plus 1,11 €, on est au plus haut de la séance, là, à 8020 points, et l'euro 1,0638 $.
Voilà, le CAC de retour grâce au luxe, la plus grosse pondération LVMH qui est autour de plus 3,9%. Justement, LVMH, on va en reparler, c'est l'heure de votre histoire du jour.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
LVMH, oui, mais aussi ASML, parce que, pour le dire un peu familièrement, il y a à boire et à manger, et surtout quelques indications peut-être pour la tendance boursière des mois à venir si on analyse ces publications LVMH et ASML d'une part et d'autre.
Oui, avec même une confirmation des tendances qui étaient observées lors de la publication des résultats annuels, hein, il y a quelques semaines, les résultats annuels 2023, vous allez voir. En fait, LVMH, bon, c'est vrai qu'il y a toujours de la croissance dans le secteur du luxe, et pour LVMH, oui, elle est en train de ralentir, notamment à cause de la Chine, et c'est une source de préoccupation de la part des marchés, étant donné que LVMH, ou l'ensemble du secteur du luxe, est quand même très très bien valorisé, donc des multiples qui justifient une certaine exigence de la part des investisseurs. Enfin, maintenant, on le voit, hein, le groupe reste solide et bénéficie encore une fois de son très fort taux de redistribution, puis de l'attrait imbattable de ses marques. Hein. Donc, le titre est bien orienté. Maintenant, si on regarde ASML, là non plus, il n'y avait rien de monstrueux ou de spectaculaire dans l'annonce de ce matin. Simplement, on voit la rentabilité qui est en train de baisser un petit peu, et surtout, on voit un chiffre d'affaires qui a du mal à redécoller et qui est attendu stable sur l'ensemble de l'année par rapport à 2023. Alors pour ASML, qui est quand même le leader mondial des machines pour faire les microgravures sur les composants électroniques, hein, enfin, tout le monde a besoin d'ASML, que ce soit les Nvidia, les Intel, les Soitec, les STMicroelectronics, qu'il n'y ait plus de croissance, que la croissance cale comme ça, c'est une source d'inquiétude. Et puis fondamentalement, si on rejoint un petit peu les deux propos avec LVMH au début, on se retrouve dans une situation, on en parlait d'ailleurs avec Alain Pitous une des dernières fois où il est venu à cette antenne à votre table, c'est qu'on se retrouve avec un tissu d'entreprise qui dégage de très belles profitabilités, de très belles marges, mais tout ça avec une activité qui a tendance à stagner, à ralentir, voire même à reculer. Ouais. Et ça, ça donne des perspectives boursières qui changent beaucoup de choses aux yeux des investisseurs, c'est-à-dire qu'il va falloir plus miser maintenant sur la capacité des entreprises à maximiser leurs profits, dans un univers de taux qui reste encore relativement tendu, qui a beaucoup, beaucoup de mal à se détendre, alors singulièrement du côté des États-Unis, mais ça se voit aussi en Europe, on voit du côté du 10 ans français qu'on est côté des 3%, ça c'est pas bon pour les valeurs de croissance. Et maintenant il va falloir faire confiance aux entreprises en matière de dégagement de profit. C'est pas très enthousiasmant de manière générale, mais c'est peut-être les nouveaux fondamentaux de la croissance qui nous attend ces prochains mois.
Merci beaucoup Antoine pour cette histoire financière en demi-teinte. On comprend les tendances qu'on pourrait observer dans les prochains mois sur les marchés. Cette histoire est à retrouver en podcast et en replay sur notre site web et notre application. Antoine, on vous retrouve un petit peu plus tard, mais en tout cas certainement demain dans notre émission. Un petit mot d'ailleurs de pétrole et d'or, parce qu'un auditeur me fait remarquer qu'on n'a pas parlé depuis ce matin. Écoutez, du côté du baril, ça rebaisse. Hein. Le Brent est autour de 89$. Alors, on se parle. Le WTI autour de 85. Et puis, l'or, effectivement, qui ne bat pas encore de nouveau record pour l'instant, autour des 2400$ l'once. Voilà pour le point matière première, cher auditeur. À tout de suite pour parler immobilier dans Tout pour investir.
Tout pour investir. La place de l'IMO.
C'est l'heure de l'IMO, comme tous les jours, dans Tout pour investir. Il faut évidemment avoir le regard de Marie sur ces taux qui bougent, qui frétillent. Qu'est-ce qu'il faut dire comme verbe là ?
Il faut dire que ce qu'on dit depuis trois mois, effectivement, c'est confirmé. On a eu les chiffres de Crédit Logement CSA, en fait, qui ont été publiés hier et qui nous disent quoi ? Ces chiffres qu'en mars, on a atteint 3,82% précisément de taux d'intérêt moyen sur 20 ans. On est à 3,9 toutes durées confondues. Donc, on est repassé clairement sous les 4%. Même sur les crédits longue durée, c'est assez intéressant. Si on regarde les crédits au-delà de 25 ans, vous avez les trois quarts des emprunteurs à date qui empruntent sous 4% sur des crédits au-delà de 25 ans. Donc, ça vaut le coup d'être souligné. Après, il faut quand même un tout petit peu relativiser cette baisse de taux. D'abord parce que effectivement, elle n'est là que depuis trois mois. Ensuite, malgré tout, bon an, mal an, on n'est quand même toujours pas très loin des 4%. Et je rappelle qu'il y a trois ans, on était à 1%. Donc, on a des taux qui ont quasiment quadruplé en l'espace de trois ans. Donc, c'est un petit peu mieux qu'en fin d'année dernière. C'est pas la panacée non plus. Il n'empêche, on a une reprise aussi de la production de crédit, parce que forcément, qui dit assouplissement du côté des taux d'intérêt et aussi de l'apport personnel, faut le dire quand même. Les banques continuent à réclamer de l'apport, c'est vrai, mais moins qu'avant. Ça fait quoi ? Ça fait qu'on a plus de crédits qui sont distribués. Alors, d'un trimestre sur l'autre, c'est assez spectaculaire. Forcément, si je regarde le dernier trimestre 2023, qui était cataclysmique par rapport à ce premier trimestre 2024, là, on a une hausse du nombre de prêts accordés de plus de 46%. Mais si je regarde sur un an, on est encore en nette baisse d'environ 20%. Donc, on va relativiser, c'est-à-dire que c'est un frémissement, c'est le début du rebond, on va le dire comme ça. Maintenant, le vrai problème, ça va plus passer du côté des crédits, et je le dis depuis assez longtemps, c'est-à-dire que ce qui a été problématique l'année dernière, c'est la rapidité de la hausse des taux. C'est pas le niveau des taux d'intérêt. Aujourd'hui, il va falloir s'accoutumer de ces taux autour de 3-4%, peut-être qu'on redescendra autour de 3,5%, peut-être 2,5%, mais des taux à 1%, a priori, sauf 4%, catastrophe majeure à l'échelle internationale, c'est pas prêt de revenir. Donc les taux, il faut les assumer maintenant tels qu'ils sont et faire avec. En revanche, il y a un vrai sujet du côté des prix de l'immobilier. Sur l'ancien, il y a un vrai sujet de conviction des vendeurs qui pensent encore qu'on peut faire comme avant. Ce n'est plus le cas. Il va falloir qu'ils acceptent de baisser leurs tarifs. Je dis à ceux qui pourraient me critiquer que ceux qui ont payé ultra cher en 2021, c'est pas les plus nombreux à vendre aujourd'hui. Oui. Donc ceux qui vendent aujourd'hui, c'est quand même des gens qui vont quand même faire une plus-value, peut-être moins importante que s'ils avaient vendu en 2021, mais ils vont quand même faire une plus-value. Et on leur rappelle que souvent, quand ils vendent un logement, c'est pour en racheter un autre. Donc, ce qu'ils vont baisser du côté du tarif de ce qu'ils sont en train de vendre, ils vont peut-être l'obtenir aussi de ce qu'ils vont racheter derrière. C'est ce qu'on appelle la fluidité du marché et retrouver un tout petit peu raison dans ce marché immobilier.
Voilà le regard de Marie Cœur de Roy sur l'orage qui s'éloigne doucement, on espère sûrement, du crédit immobilier. Pour parler justement de ces achats dans l'ancien et de globalement investir dans l'immobilier résidentiel, nous accueillons notre invité Marie-Stéphane Imovitch. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes président et directeur général du groupe Icori. Votre regard peut-être sur cet état du marché. Et avec vous, on va essentiellement parler du résidentiel. Alors donnez-nous le pouls de ce marché résidentiel.
Ben, le marché résidentiel, effectivement, comme Marie l'a dit, est un marché qui souffre depuis un an et demi, lié à la remontée des taux. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. La problématique n'est pas tant le niveau des taux, puisqu'on a connu des taux bien supérieurs. Mmh. Je me souviens d'il y a à peu près 12-13 ans, on était à des taux qui étaient proches de 8%. Et c'est plutôt la rapidité. Et je pense que la rapidité, c'est un sujet parce que... finalement, que ce soit 4%, que ce soit 8%, que ce soit 1%, la problématique, c'est la solvabilité des ménages. Et donc, la solvabilité des ménages, aujourd'hui, elle va se faire, bien sûr, par un atterrissage sur les prix. Donc, on commence à sentir un atterrissage sur les prix, qui, dans certains cas, peut être relativement significatif. Cet atterrissage sur les prix, il est doublé par la problématique des diagnostics de performance énergétique, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, les DPE rentrent fortement en considération dans l'élaboration d'un prix d'appartement ou de maison.
Et plus on avance, plus il compte. C'est-à-dire, plus l'échéance des interdictions des passoires thermiques à la location approche, plus les décotes sont importantes sur les biens les plus mal notés.
Absolument, vous avez totalement raison. Et effectivement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on peut trouver des décotes de 10, 15, voire 25% sur les biens les plus mal notés. Alors la problématique, c'est bien sûr une problématique de prix de vente, mais la problématique derrière, c'est la problématique du locatif. Parce qu'il est bien évident, je voudrais rappeler quand même un point qui est important, 90% des bailleurs sont privés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des institutionnels,
c'est gentil
ce sont
de le
les
rappeler.
Particuliers.
C'est gentil de le rappeler.
Et les particuliers, bien évidemment, sont souvent, contrairement à ce que les pouvoirs publics ont tendance à penser, ce ne sont pas des rentiers, ce sont des gens qui sont des vrais bailleurs, ce sont des gens qui ont envie de mettre en location leurs biens parce que c'est un complément, notamment pour leur retraite.
Et oui, on pense à tous les retraités bailleurs. Il y a un de nos auditeurs qui s'appelle Louis, qui vous a écrit, Marie, et qui parle de racket fiscal sur les retraités bailleurs.
Effectivement, comment vont faire ces bailleurs privés qui sont souvent des gens relativement modestes, comment vont-ils faire pour pouvoir financer ces travaux, parce que très souvent ce sont des biens qui sont mal notés et s'ils sont mal notés, ils ne vont plus pouvoir les louer.
Et c'est ce que j'allais dire, avant que ce soit une problématique locative, comme vous avez dit, entre les deux il y a une problématique travaux, réalisation de travaux, budget de travaux, et donc c'est une couche de plus dans le sandwich.
C'est une couche de plus dans le sandwich.
En même temps, les gros sandwichs c'est très bon, mais...
et en parallèle, il faut savoir que les travaux, quand vous faites passer un bien de G pour le faire passer à D.
Quand vous tentez de passer de G à D.
Quand on tente de G à D, il faut compter entre 40 et 50 000 euros pour un logement de taille intermédiaire. Mmh. Donc c'est un coût très important. Alors quand on est... les investisseurs institutionnels, ils ont déjà réalisé très souvent les travaux. Donc il n'y a pas de problématique pour ce type de bailleur. En revanche, les particuliers, c'est un vrai souci. Et ça, je pense qu'il faut que les pouvoirs publics en prennent conscience. Faute de quoi, on va se retrouver vers une crise du locatif comme précédent.
On y est déjà. Hein, quand on regarde, juste vous baladez dans les villes tendues, je pense à Paris, mais pas que, où il y a des marchés locatifs qui sont nés, même dans des villes un peu plus moyennes ces dernières années, et que vous voyez les devantures des réseaux d'agences immobilières avec écrit « on n'a pas de bien à louer », il y a quand même un vrai problème. Mais bon, bref. On parle de l'ancien et des problématiques de l'ancien. Mmh. Comment ça va du côté du neuf ?
Côté du neuf, la problématique est encore plus difficile, si je puis dire. Ne serait-ce qu'on n'a qu'à voir qu'au cours de l'année 2023, les ventes ont baissé de 37%. Alors qu'au cours de l'année 2023, toujours, mais sur l'ancien, on n'est qu'à 27%. Donc,
J'aime bien faire de la pédagogie. Vous le savez, Marie est une pro de l'immobilier. Vous aussi, cher Stéphane. Mais l'ancien, là, pour ceux qui nous écoutent, qui suivent cette séquence au quotidien, qu'est-ce que c'est ? Rappelez-nous un petit peu.
L'immobilier ancien ? Ben, ce sont des appartements qui ne sont pas neufs, des biens qui ne sont pas neufs.
A priori, qui sont sortis de terre depuis au moins 5 ans, on va le dire comme ça.
Ils sont sortis de terre depuis au moins 5 ans. Alors ensuite, on fait la distinction entre le récent, le neuf, l'ancien. Mais disons que l'ancien, c'est le patrimoine classique que l'on peut voir un peu partout dans les villes, et souvent ancien, qui nécessite des travaux, bien évidemment.
Et cette définition changera peut-être quand il n'y aura plus aucun neuf qui sortira du sol.
Oui, mais ce sera assez dramatique, parce qu'en l'occurrence, faire du neuf, c'est aussi faire du performant énergétiquement, compte tenu de la réglementation. Exactement. C'est aussi ça qui est assez dramatique. Mais justement, sur le neuf, on a l'impression quand même que malgré tout, à chaque fois, je tire sur les vendeurs d'anciens, mais on a le sentiment quand même que l'ajustement à une phase compliquée est plus simple dans l'ancien que ça ne l'est dans le neuf, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Oui, il est plus simple parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les promoteurs ont très souvent acheté des fonciers à des prix extrêmement élevés. Mmh. C'est le premier point. Deuxième point, les promoteurs ont des coûts de fabrication de l'immobilier beaucoup plus élevés compte tenu des normes. Donc, ce double facteur a un impact très fort, et donc très souvent, ils ont difficulté à baisser leurs prix véritablement, faute de quoi ils perdent énormément d'argent.
Là, ce qu'on voit quand même, parce que j'avais appelé il y a quelques semaines un spécialiste de cet immobilier neuf qui me disait c'est la foire fouille. Vous allez sur tous les sites de promotion immobilière, c'est je t'offre 5 000 euros, 20 000 euros par pièce, je t'offre les frais de notaire, je compense les avantages qui disparaissent sur le Pinel, je fais ci, je fais ça. Est-ce que c'est symptomatique de cette crise sans précédent là, pour le coup, que sont en train de traverser les promoteurs immobiliers?
Je pense que les promoteurs traversent une crise sans précédent. Pour les raisons qu'on a évoquées, parce que aussi il faut savoir que le foncier reste très cher, et aujourd'hui on s'aperçoit que beaucoup de promoteurs préfèrent renoncer à des acquisitions de foncier tout simplement parce que les vendeurs ne sont pas prêts à baisser le prix du foncier, et donc on va se retrouver dans une situation dramatique, et dramatique surtout dans les années à venir, parce que les promoteurs ne vont pas construire, ne vont pas acheter de foncier, donc ne vont pas construire, et donc on se prépare une crise du neuf encore pour plusieurs années.
Mais faut faire quoi ? Faut faire quoi ? Parce que c'est vrai qu'on fait ce constat quasiment quotidiennement dans l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer la machine, en fait ?
Ce qu'il faut faire pour relancer la machine ?
Relancer un Pinel.
Je suis pas sûr que ce type de d'approche soit suffisante. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut inciter des bailleurs à revenir sur le marché. Alors, ça passe par les bailleurs institutionnels, bien évidemment.
Ça, pour le coup, on peut pas dire que le gouvernement n'est pas là.
Oui, sur le logement, alors notamment sur le logement intermédiaire, parce qu'on a besoin énormément de logements intermédiaires. J'écoutais ce matin le fait que, en matière de logement HLM, un député a souhaité que ce soit plutôt dédié à un certain nombre de fonctionnaires. C'est une bonne chose.
C'est déjà le cas, hein, c'est ça qui est assez
alors, terrible. C'est déjà le cas, mais pas complètement. J'ai travaillé dans une société de logement social et je voyais comment les attributions se faisaient. Donc, c'est pas uniquement sous cette forme-là. Mais il faut absolument qu'on arrive à mettre en place un statut pour les bailleurs qui soit un statut pérenne, avec une fiscalité pérenne, et pas des mesures qui sont des à-coups en fonction du nom du ministre du logement en question.
La visibilité, donc vous dites, de la stabilité.
Ouais, donc vous dites, non mais je rejoins la question que posait Lorraine, c'est-à-dire vous dites plus de Pinel dédié au neuf, mais un statut du bailleur privé qui concernerait à la fois ceux qui achètent pour investir dans le neuf et à la fois ceux qui achètent pour investir dans l'ancien.
Absolument.
Ce serait quoi ? Ce serait, par exemple, typiquement à la performance énergétique qui pourrait concerner aussi bien le neuf que la rénovation. Énergétique.
Ça pourrait être une modération dans les loyers. On peut très bien assortir ce type de statut avec une modération dans les loyers.
Ça existe déjà, ça ?
Ça existe pas de manière aussi claire. Et puis, ça peut être aussi selon la durée du bail. Aujourd'hui, un particulier peut faire des baux pour 3 ans. Un institutionnel fait des baux pour 6 ans. On peut très bien imaginer des baux long terme, ce qui permettrait aussi de sécuriser les locataires.
Bien sûr, et qui éviterait justement les bifurcations sur du meublé courte durée, etc.
Absolument. Et alors, là aussi, on s'aperçoit que le fait qu'il n'y ait pas une vraie politique du logement en France fait que, naturellement, on se retrouve avec tous les effets pervers que l'on peut trouver, et notamment les baux civils, à des prix absolument démentiels. Donc, aujourd'hui, il faut prendre en considération, je reviens sur cette notion, le bailleur privé n'est pas un rentier, le bailleur privé est un élément économique qui va permettre de favoriser le locatif en France, et il doit être assorti de conditions. Ça peut être des conditions de loyer, ça peut être des conditions de durée, ça peut être des conditions sur le plan énergétique. Et c'est tout ce qu'on essaie de proposer au pouvoir public actuellement.
Bon, et donc, d'ici qu'on obtienne ça, parce que moi, j'y crois même plus, je suis un peu négative. D'ici qu'on obtienne un statut du bailleur privé, qu'on ait une vraie politique du logement, tout ça. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore le moment d'investir ? Est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien ? Est-ce que c'est encore le moment d'investir ?
Alors, je pense que c'est un moment intéressant pour investir. D'abord, vous le soulignez, baisse des taux. On arrive à des niveaux de taux qui sont tout à fait compatibles. Baisse des prix également, les prix commencent à baisser, on s'aperçoit globalement en France les prix ont baissé de 4%, mais si on regarde les zones tendues, et je pense à la région Île-de-France et notamment Paris, on est sur des baisses de prix beaucoup plus significatives, on arrive à 9% de baisse de prix, c'est-à-dire qu'on est passé en dessous de la barre des 10 000 euros sur Paris. On est à 9600 ou 9700 euros le dernier trimestre. Et là, on va passer vraisemblablement à 9400 euros. C'est ce que la Chambre des notaires nous indique. Donc, il faut retrouver une certaine solvabilité. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut profiter justement du fait qu'on a des logements qui ne correspondent pas aux normes, faire des travaux, pouvoir déduire les travaux, etc., etc. Donc, on est dans un moment tout à fait intéressant. Et on est dans un moment intéressant pour l'ancien. On est dans un moment qui commence à être intéressant pour le neuf, puisque un certain nombre de promoteurs assortissent les ventes avec quelques avantages.
La foire fouille, comme dirait Marie.
Voilà. Et puis enfin, il y a aussi toute la vente des lots occupés. Et la vente des lots occupés, ça peut être très intéressant parce que...
Un logement dans lequel j'ai déjà un locataire.
Un logement dans lequel déjà j'ai un locataire. Je peux mesurer la fiabilité du locataire. J'achète un peu moins cher qu'un logement libre et je perçois des revenus immédiatement.
Voilà, on a apporté quelques éléments de réponse à la question, est-ce que c'est le moment ? Le timing est-il le bon pour concrétiser vos projets d'investissement que peut-être vous avez mis de côté pendant de longs mois, pendant peut-être quelques années, si vous sentez que vous avez raté la fenêtre des taux à 1%, et où est-ce qu'il faut attendre encore plus de baisse de prix ? Voilà, on vous a donné des éléments de réflexion, maintenant à vous de passer à l'action. Merci Marie Cœur de Roy, merci beaucoup Stéphane Imovic du groupe Ikori, que j'appelle pour ceux qui nous écoutent, I-K-O-R-Y. L'immobilier, c'est tous les jours à 11h15 sur BFM Business et vous le savez, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en podcast sur notre plateforme. Vous restez avec nous, nous marquons une rapide pub et après ça, on s'occupe de vous, de répondre à vos questions sur les fonds euros. Vous savez, ils ont la cote, ces fonds euros en 2024. Décryptage, réponse à vos interrogations, quelle place dans votre stratégie d'investissement ? Même question pour le vin. En fin d'émission, nous serons avec Angélique Delanxin d'Ideal Wine qui va nous parler de l'état du marché du vin, un marché orienté à la baisse lui aussi. Il n'y a pas que les taux qui baissent. A tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumont.
Tout pour investir, peut-être en fonds euros. Enfin, ne mettez peut-être pas tout sur vos fonds euros. C'est ce dont on va parler avec Romain Joudelat dans les prochaines minutes. Bonjour Romain.
Bonjour Lorraine.
Co-fondateur de Colbert. Et oui, ces fonds euros, ils renaissent finalement en 2024. On parle d'eux en bien. Donnez-nous un petit peu de contexte. Ils étaient où ces fonds euros et pourquoi on en parlait plus trop ou pas de la même manière dernièrement?
Oui, c'est vrai. Alors, pour une fois, on ne va pas parler d'actifs risqués, effectivement. Et je pense que c'est quand même un sujet important. Puisque déjà, il faut le rappeler, ça concerne 78% des encours en assurance vie. Ouais. Et par ailleurs, c'est 1400 milliards en termes d'épargne au niveau français. C'est quasiment le triple des livrets A cumulé même au livret de développement durable. Et c'est d'autant plus intéressant puisque aujourd'hui, depuis 2022, on a eu une hausse des taux d'intérêt qui a bouleversé un peu le monde de l'épargne, dont les fonds en euros qui en profitent puisque les rendements s'améliorent. Et tout ça même dans un contexte où il y a quand même des conflits géopolitiques, il y a des marchés actions qui ne cessent de progresser avec une volatilité et des incertitudes qui ne sont pas encore parfaitement maîtrisées. Donc le fonds en euros trouve sa place dans une allocation d'actifs.
Bon, on va faire un petit peu de pédagogie parce qu'effectivement, ces fonds euros, on en parle, on les associe souvent à l'assurance vie, à une partie de l'assurance vie. On les oppose souvent aux UC, aux unités de compte. Un peu de pédagogie pour ceux qui nous suivent et qui débarquent.
Ouais, bah alors vous faites bien de le rappeler. Effectivement, déjà, le fonds en euros, très clairement, c'est un fonds spécifique qui est géré par des compagnies d'assurance. Donc vous ne le retrouverez jamais dans un PEA, dans un compte-titres, ça sera dans des contrats d'assurance-vie, éventuellement des contrats de capitalisation ou encore des PER. Et la spécificité en fait, de ce fonds d'investissement, c'est qu'il est investi avec un mandat particulier puisqu'il est garanti en capital. Ça veut dire que peu importe, si vous voulez, l'évolution des marchés financiers, votre capital investi en fonds en euros ne bougera pas.
C'est comme un peu un livret à l'intérieur de votre assurance vie.
Alors, c'est vrai qu'il y a aussi ce phénomène où les taux d'intérêt, les intérêts également du fonds en euros, en fait, se rajoutent au capital année après année, sans payer la fiscalité puisque c'est capitalisé, c'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. Et on peut aussi le comparer, je pense, au livret A, dans le sens où on parle souvent des 8 ans de l'assurance vie, mais rappelez-vous aussi que ces 8 ans, c'est lié à un dispositif fiscal avantageux et non pas à une illiquidité de vos disponibilités. Donc, comme le livret A, vous pouvez en bénéficier à tout moment.
On peut rentrer et sortir.
Tout à fait.
Il faut le rappeler, cette liquidité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les performances des fonds euros, si on fait un petit peu d'historique, ouais, sur l'horizon de temps qui vous plaît?
Ouais, bien sûr. Alors, peut-être déjà un point, revenir peut-être sur les moteurs de performance et le fonctionnement de ces fonds en euros pour bien les comprendre. Déjà, les fonds en euros, en fait, sont constitués, donc sont gérés par des compagnies d'assurance qui ont un mandat de garantie en capital. Donc, quand on a un mandat de garantie en capital, quand on est gérant professionnel, on va aller investir sur des actifs qui sont peu risqués, principalement du monétaire, des obligations, d'État, un petit peu d'obligations d'entreprise également, et puis pour une plus petite partie, des actions de l'immobilier, voire des fonds alternatifs. Donc en fait, une fois qu'on a compris effectivement la composition de ces fonds en euros, ben, on en comprend aussi le moteur de performance. Et en fait, il y a réellement deux moteurs de performance, c'est là où ça va être un petit peu plus technique. Il y a le moteur de performance qui est lié, bah, effectivement à la performance des actifs détenus par le fonds en euros, donc ça va être les revenus fixes, des obligations, de l'immobilier, etc. Mais aussi l'évolution en capital de ce portefeuille financier qui va prendre de la valeur année après année. Donc ça, c'est le premier moteur, plutôt classique, lié aux actifs. Le deuxième moteur, c'est également la politique en fait de gestion et commerciale de la compagnie d'assurance vie. Alors là, je vais parler de jargon parce qu'on va parler de provision pour participation aux bénéfices. Je vous la fais courte. L'assureur a la possibilité en fait de choisir s'il verse la totalité ou partiellement des profits aux assurés, ou alors s'il en met une partie en réserve. Et ces réserves, il peut les distribuer quand il le souhaite sur une période de 8 ans. Et je vous rassure aussi, c'est les assurés qui, si vous voulez, sont propriétaires de ces réserves dès lors qu'ils restent effectivement sur cette période.
Voilà, d'où l'importance de ces 8 ans.
Exactement.
Qui ne doivent pas être une barrière psychologique, mais simplement voilà, un horizon de temps et donc qui doit vous encourager peut-être à prendre date dans votre assurance vie.
Tout à fait.
Bon, on parlait d'un placement historiquement prudent, ça c'est sûr, mais historiquement attractif. Aujourd'hui, mi-avril 2024, le fonds euro est-il aimé ou mal aimé?
Les fonds en euros, je pense, commencent à reprendre des couleurs. Et d'ailleurs, par le passé, je pense que ils ont été plutôt mis à mal par la baisse des taux d'intérêt. De nombreux investisseurs se plaignaient des performances des fonds en euros. Parfois même, finalement, aller chercher du risque sur d'autres classes d'actifs comme l'immobilier pour aller chercher justement des rentabilités supérieures. Néanmoins, déjà, historiquement, quand on compare en fait les performances du fonds en euros par rapport aux liquidités, alors quand je dis liquidité, c'est liquidité rémunérée, soit le livret A ou les comptes à terme, bien entendu. Et ben en fait, en absolu, elles paraissaient faibles dans un environnement de taux bas, mais en relatif, elles étaient élevées. En fait, il n'y a que 2 années sur 15 où le fonds en euros a une performance inférieure au compte à terme. C'est en 2008, et en 2023. Et en fait, si vous voulez, la raison, elle est simple. C'est que les taux d'intérêt ont très fortement bougé en 2022. Ils ont monté très, très fortement. Et donc, ça s'est retraduit, ça a bouleversé le marché de l'épargne. Ça se retraduit directement dans l'épargne réglementée et les comptes à terme qui ont remonté leur taux d'intérêt très, très rapidement. Vous, en tant qu'épargnant, vous alliez à la banque, vous pouvez ouvrir un livret A à 3% ou avoir un compte à terme à des niveaux de rendement supérieurs. À l'inverse, quand vous alliez investir dans un fonds euro, même en 2023, les taux étaient meilleurs qu'en 2022, mais ils sont encore de 2,5%. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, je le disais, ce monde de l'épargne, il a été fortement bouleversé. Ce qu'il faut comprendre, c'est la mécanique en fait des taux d'intérêt et comment ça influe sur votre épargne. La mécanique de taux d'intérêt, je le disais, a fait qu'une hausse des taux d'intérêt vous a permis d'avoir un livret A qui rapportait de 1% à 3%. Mais ça a aussi bouleversé le monde du marché obligataire et même de l'immobilier. Le monde du marché obligataire, bah, à l'époque, ça rapportait 0%. Quand les taux sont à 3%, quel est l'intérêt de prendre un risque pour avoir du 0%? Aucun. Et quand l'immobilier rapportait 4,5% avec un taux sans risque à 3%, on peut commencer à se poser des questions effectivement sur l'intérêt de ce type d'investissement. Les investisseurs comme vous étant rationnels, eh ben, en fait, ils ont, alors en tout cas on essaie, ils ont fortement en fait impacté à la baisse les valorisations de ces actifs. Donc les obligations ont très fortement chuté en 2022, ce qui a permis de rendre en fait les rendements beaucoup plus attractifs. Et donc la rentabilité exigée des actionnaires, des investisseurs.
Voilà l'histoire du regain d'intérêt de ces fonds euros. Maintenant, on va parler stratégie. On va parler des choix qu'il faut faire pour ces fonds euros à l'intérieur de nos portefeuilles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Romain ?
Alors, je pense que ça dépend de votre cahier des charges. Votre cahier des charges, il dépendra bien entendu de votre horizon d'investissement, mais aussi de votre profil de risque, comme d'habitude. Mmh. Le point important, c'est que si vous avez un horizon d'investissement qui est flou, qui est plutôt court-moyen terme, il est clair qu'on va privilégier une pondération forte en fonds en euros. Et pour ça, en fait, on peut profiter aujourd'hui d'une part d'un rendement qui s'est amélioré. Je le disais, 2,5% en moyenne en 2023, et ça va continuer en 2024, puisque le rendement des obligations, en fait, est plus élevé, et le stock d'obligations va se renouveler au fur et à mesure. Et en plus, on a des compagnies d'assurance en fait qui viennent également booster en fait cette performance via des politiques commerciales, ce qu'on appelle des taux bonifiés. Alors je m'explique, puisque là c'est un point qui est assez intéressant, puisque le commercial rejoint si vous voulez l'intérêt de la gestion. La compagnie d'assurance vie va, si vous voulez, vouloir investir progressivement sur des rémunérations plus élevées des obligations, on le disait. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attirer l'argent des épargnants. Et pour ça, donc, elle va vous faire profiter de taux bonifiés. Donc vous
super
auriez
eu boost.
Voilà, exactement. Donc vous aurez eu un taux de rentabilité de 2,5, et ben là on vous propose un taux de rentabilité de plus de 4%, voire parfois sur certains contrats de plus de 5% sur la base du taux de rentabilité de l'année dernière, sous réserve que vous investissiez quand même un petit peu en UC. Donc ça, quand on a un investisseur qui a pas trop de visibilité sur sa durée d'investissement, aujourd'hui on peut faire une allocation d'actifs avec une grosse partie de fonds euros avec une rémunération brute supérieure à 5% et des fonds prudents qui viennent compléter cette allocation et qui viennent pas bouger trop le profil de risque. Donc ça, c'est pertinent.
Romain, très concrètement pour finir cette séquence, est-ce que vous pouvez nous aider à choisir notre fonds euro? Qu'est-ce qu'il y a comme grille de lecture à avoir?
Oui, alors au-delà de cette logique à court-moyen terme, il y a aussi la logique à plus long terme de considérer le fonds euro comme une brique, si vous voulez, pour gérer vos risques et protéger votre capital.
Pour diversifier.
Exactement. Donc, ce qui va être intéressant pour choisir son fonds en euro in fine, ça va être déjà de choisir le bon contrat. Parce que, attention, si vous choisissez un fonds euro et donc, in fine, un contrat sans regarder les frais du contrat, sans regarder l'univers investissable, le jour où vous allez changer de profil de risque et vous allez vous retrouver à sélectionner des fonds qui sont pas pertinents ou chers, bah malheureusement vous allez être obligé de le casser et de payer la fiscalité.
J'ai déjà mal à la tête rien que de penser au fait que je l'ai probablement pas fait moi.
Exactement. Donc prenez date, mais choisissez le bon contrat et in fine regardez le fonds en euros. Donc là, plusieurs choses à regarder. La performance passée, regardez pas uniquement la performance 2023, parce que vous l'avez compris, les compagnies d'assurance peuvent effectivement distribuer des réserves et booster parfois cette performance. D'ailleurs, regardez ce niveau de réserve, hein. Si vous amusez, que vous êtes un passionné de la finance, regardez les rapports annuels de ces compagnies d'assurance-vie, vous aurez la possibilité même de regarder le niveau de réserve.
Sinon, et du coup, d'anticiper peut-être des super boosts pour l'année suivante.
En tout cas, de connaître le confort, effectivement, des compagnies d'assurance-vie. Si ça vous chagrine, allez voir votre conseiller, il le fera pour vous. Oui. Au-delà de ça, il y a aussi deux autres sujets à regarder. C'est la composition du fonds en euros. Ces 10 dernières années, avec la baisse des taux, il y a eu une diversification très très forte, avec parfois des fonds en euros qui sont allés beaucoup sur des actions, beaucoup sur de l'immobilier, des actifs liquide. Attention, surtout si ces fonds en euros n'ont pas un grand succès commercial, parce qu'ils peuvent être justement dans une situation plus compliquée. Et pour finir, regardez le succès commercial des fonds en euros qui sont dans votre liste. Pour une simple et bonne raison, plus ils collectent, plus ils investissent sur des meilleures rémunérations, plus votre performance future sera meilleure.
Il y a un cercle vertueux, ce que vous nous dites, c'est ça?
Exactement.
Bon, un dernier mot sur la taille du fonds. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a une taille minimum en dessous duquel on ne va pas?
Alors, c'est comme tout fonds d'investissement, alors généralement, on peut regarder quand même des fonds en euros qui pèsent plusieurs milliards d'euros. Hein, en dessous, c'est quand même petit et c'est souvent des fonds en euros qui vont se constituer. Alors, les petits fonds en euros ont l'avantage de se constituer plus récemment avec des taux de rentabilité du coup meilleurs liés à la rentabilité actuelle des obligations. Par contre, ils vont être beaucoup plus volatiles et sensibles à l'évolution des marchés. Donc, quand on investit dans un fonds en euros, on n'investit pas pour faire un pari. Donc, aller chercher plutôt des fonds en euros plus importants, plus significatifs et très bien diversifiés.
Voilà, comment choisir son fonds euro avec Romain Joudelat de l'équipe Colbert. On regarde le contrat, on regarde les petites lignes, on regarde de près les performances passées et pas que celles de 2023, parce que vous avez entendu, voilà, les fonds bonifiés viennent peut-être biaiser cette performance. Et puis, la composition, évidemment, les petites lignes et puis la taille du fonds. Voici quelques informations qu'on pouvait vous apporter sur ces fonds euros, quelle place dans vos investissements en 2024. Et bien sûr, ce qu'on dit est vrai, là, mi-avril 2024, pour ceux qui nous écouteraient en différé. Merci Romain et toute l'équipe de Colbert d'avoir été avec nous. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay. Si vous avez attrapé en cours de route cette interview, vous la retrouverez sur le site et l'application BFM Business. Il reste encore une interview dans Tout pour investir. Nous allons parler investissement thématique aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'intéresse au vin, justement, dans un marché baissier, car oui, le marché du vin est en baisse. Comment réfléchir à construire une cave dans une logique patrimoniale, construire ou étoffer une cave? Réponse dans quelques secondes, à tout de suite.
Tout pour investir, l'investissement iconique.
Nous allons parler de votre cave. D'ailleurs, demain, on parlera investissement dans les caves au sens propre, dans les caves, les parkings, les box. Mais là, on va parler de votre plus belle cave, votre cave à vin, avec Angélique Delanxin. Bonjour Angélique.
Bonjour Lorraine.
Ou ce qui reste d'Angélique, parce qu'Angélique est comme beaucoup d'entre nous, est souffrante. Merci d'être avec nous néanmoins, chère Angélique. Vous êtes directrice générale déléguée d'Ideal Wine. On va parler de comment réussir ses placements dans le vin, dans un marché baissier. Je faisais une petite note d'humour tout à l'heure assez douteuse sur le fait qu'il n'y avait pas que les taux qui baissaient. Le marché du vin aussi connaît une tendance baissière. Vous allez nous raconter ça. Vous êtes venu avec un baromètre que vous faites tous les ans. Donc, on a quelques chiffres en plus pour illustrer cela. Par quoi on commence? Peut-être donnez-nous le pouls de ce marché, justement. Comment ça se fait que ça baisse? Qu'est-ce qui baisse? Expliquez-nous.
Alors, l'année dernière, effectivement, sur un échantillon assez vaste, hein, puisque sur la plateforme d'Ideal Wine, il y a un peu plus de 220 000 bouteilles qui ont été adjugées. Ce qui fait d'ailleurs d'Ideal Wine le premier acteur des enchères de vin en France. Le prix moyen des bouteilles adjugées, qui avait, il faut le dire, atteint des records en 2022, hein, 194 euros en moyenne, la bouteille adjugée. Ce prix est retombé à 152 euros en 2023, soit une baisse de 22%. Certes, c'est un chiffre global, et ce qu'il faut savoir, c'est que cette baisse, elle s'est quand même concentrée sur les domaines dont le prix avait le plus explosé en 2022.
Exemple.
Surtout, en fait, des domaines, on parle, il y a des domaines emblématiques, ce qu'on appelle les Big Eight. Il faut savoir que sur ces huit domaines qui ont enregistré vraiment des très fortes baisses, six sont issus de Bourgogne. Hein, vous avez le domaine Leroy, le domaine d'Auvenay, le domaine Roumier, le domaine Rousseau, le domaine Bizot et le domaine Lachaud. Donc, six domaines bourguignons auxquels viennent s'ajouter les vins de Château Rayas et de tous les vins produits par ce producteur Emmanuel Reynaud et la Grange des Pères en Languedoc. Donc, voilà, très concentré sur la Bourgogne. La Bourgogne qui concentre quand même 40% de la valeur adjugée l'année dernière. Hein, c'est une bouteille sur quatre qui est un Bourgogne.
La première donc, région des enchères, on peut le dire comme ça.
Alors, la première région en valeur, sachant que en volume, c'est Bordeaux qui reste la première région.
Bon, voilà quelques enseignements qu'on peut tirer. 2023, ce n'est pas une année comme les autres. Mm-hmm. Alors, on l'entend, les prix sont un petit peu descendus. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de 2023 et qui nous permet de prendre le pouls?
Oui, alors 2023, c'est vrai que ça a été une année vraiment de réajustement très net, d'accalmie très forte des cours sur, encore une fois, sur les excès, enfin les excès de 2022 qui ont été corrigés, gommés au cours de l'année. Pour autant, le marché a retrouvé son niveau d'équilibre et aujourd'hui, on est dans une situation où on parle de marché baissier, mais en fait, on est surtout dans un marché qui, à nouveau, a retrouvé un dynamisme important. J'en veux pour preuve le nombre d'enchères qui sont portées sur chaque lot. Hein. Vous avez en moyenne plus de 3 enchères par lot, ce qui signifie que l'intérêt revient. Et également un intérêt qui est mondial sur les vins, puisque vous avez 67 pays qui enchérissent et les 2/3 des vins en valeur qui sont achetés par des amateurs étrangers. Donc cet engouement qui revient sur les vins aujourd'hui montre que c'est vraiment, il est urgent de s'intéresser à ce marché, parce qu'il y a encore beaucoup d'opportunités à saisir, mais les prix sont susceptibles de remonter.
Quand on parle prix élevé, on pense aux grands crus. Cette tendance baissière, elle se lit particulièrement sur les grands crus.
Alors elle se lit sur, effectivement, dans chaque région, souvent les icônes de chaque région sont celles dont les vins ont vu leur prix effectivement baisser en 2023. D'où de belles opportunités effectivement d'achat.
Est-ce qu'il y a des régions en particulier que vous pouvez partager avec nos auditeurs où il reste des opportunités d'achat?
Alors tout dépend de votre profil. En fait, si vous avez un profil prudent, vous allez vous concentrer sur les 3 grandes régions qui sont traditionnellement les plus présentes dans les ventes aux enchères. Je pense à Bordeaux, on l'a dit, la Bourgogne et la vallée du Rhône, qui ont représenté l'année dernière 73% des volumes adjugés et même 81% de la valeur. Et si vous avez un profil plus dynamique, un peu plus joueur, là vous allez vous intéresser à toutes les autres régions, parce que nous en passons une quinzaine en revue dans notre baromètre pour la France, plus l'Italie et les pays étrangers. Donc, vous allez vous intéresser à la Loire, au Languedoc, à la Corse, au Jura, bien sûr, parce que depuis quelques années, c'est un Eldorado. Et aussi, on en a déjà parlé, à la Savoie.
À la Savoie, oui.
Sans oublier, donc, des régions qui peuvent sembler beaucoup plus mineures en termes de volume adjugé, mais qui recèlent chacune des producteurs phares, qui sont vraiment des locomotives dans leur région. Et c'est d'ailleurs un des grands intérêts de ce baromètre, c'est d'aller identifier dans les ventes aux enchères les domaines qui ont suscité un engouement un petit peu particulier, dont nous dressons la liste. Et là, alors, on vous donne les noms. Après, il faut aller les trouver.
Un tout petit mot rapide sur tout ce qui est vin bio, en biodynamique, voire not my favorite, les vins nature. Est-ce que là aussi, vous suggérez qu'il faut regarder de près parce que ça gagne en potentiel?
Alors, ce sont effectivement, la proportion de ces vins-là a continué à croître l'an dernier. Elle est passée de 25 à plus de 28% des vins adjugés. Tous les vins ne disposent pas d'un label, hein, ne le revendiquent pas, mais tout en étant conduits de façon extrêmement raisonnée. Donc, l'appréciation de ces vins-là et du critère biodynamique, voire naturel, est différent d'une zone à l'autre. Par exemple, l'Europe du Nord est très sensible aux vins en biodynamie. Les Américains recherchent des vins nature très pointus. L'Asie marque moins d'intérêt, va rechercher plus la renommée d'un terroir, d'un domaine. Donc finalement, ces appréciations sont variées, mais tout de même, elles se rejoignent sur le haut du podium, parce que si vous prenez les vins les plus chers adjugés l'an dernier, la plupart sont conduits en bio ou en biodynamie.
Bon, on va finir cette séquence de manière très pratico-pratique, comme j'aime le faire, Angélique. On est dans une logique de constitution de cave. Bon, d'abord, il y a quelques critères à respecter que vous allez nous rappeler. Et surtout, avec tout ce que vous nous avez dit, comment on fait pour intégrer les régions peut-être moins cotées dans notre cave, tout en n'oubliant pas d'investir sur les iconiques, pour parler un peu comme dans le luxe? D'abord, les critères à respecter pour construire une cave, rappelez-les-nous.
Mais disons qu'il y en a Il y en a trois principaux. Le premier, c'est, pardon, mais c'est très basique, c'est d'avoir une cave. Une bonne cave, avec des conditions de conservation qui vont vous permettre de garder vos vins sans les altérer. Donc, température, hygrométrie et sécurité. Le deuxième, c'est le temps. Il faut avoir du temps. Il ne faut pas considérer l'investissement vin comme un investissement de court terme. Il faut donner un objectif de 8 ans, 10 ans, parce que vous avez des frictions, vous avez des frais à l'achat, à la revente, qui vont devoir être lissés dans le temps et qui vont peser sur la valorisation. Et puis le dernier critère qui est très important, c'est qu'il faut avoir un intérêt réel pour le vin. C'est-à-dire que il faut suivre, il faut aller rechercher les bons millésimes de garde. Il faut pas se tromper, puisque c'est un investissement qui n'est pas de court terme. Il faut choisir des vins dont le potentiel est important.
La revente, comme et surtout à la dégustation.
Absolument. Et puis il faut aussi peut-être se renseigner pour aller rechercher un peu avant tout le monde les domaines qui demain vont être les stars. Donc ça nécessite effectivement de se cultiver, de suivre et de s'informer. C'est vraiment les trois critères principaux.
Angélique, le mot de la fin sur du coup comment on répartit dans sa cave les différentes régions dont vous nous avez parlé. Est-ce qu'il y a une allocation idéale en pourcentage?
C'est toujours intéressant de suivre, je trouve, la répartition qui a été enregistrée au niveau de nos enchères l'an dernier, parce que c'est un petit peu la cave idéale. Mm-hmm. Je vous ai parlé de donc ces trois quarts pratiquement qui sont consacrés aux trois régions classiques. Bourgogne, après, Bordeaux, je dirais que c'est vraiment, il faut constituer la cave que l'on rêve de goûter un jour. Parce que ça va vous amener à aller faire vos recherches, à aller vraiment vers les vins que vous rêvez d'ouvrir un jour. D'ailleurs, au passage, si la rentabilité n'est pas au rendez-vous, vous aurez toujours un énorme lot de consolation qui consistera à ouvrir la bouteille. Donc ça, rien que pour ça, c'est important de suivre ça. Après, vous avez un certain nombre de critères, vin rouge, vin blanc, accorder une part importante, croissante même peut-être au vin blanc, puisque la consommation tente à se développer pour cette couleur de vin, en lien avec le réchauffement climatique, on recherche des vins plus frais. Mm-hmm. Et puis, ce critère bio, bien sûr, qui doit aussi guider vos choix.
Voilà, fait votre cave en fonction de ce que vous avez envie de boire. Ce sera ça le mot de la fin de cette chronique. Merci, Angélique.
En toute modération, oui, pardon.
J'ai des instructions fermes de BFM Business. Bien sûr, il ne faut pas trop boire. L'excès d'alcool est dangereux pour la santé. Et vous savez tout ça. Néanmoins, c'est une bonne manière de parler d'économie, de parler du vin et de placement. Merci beaucoup, Angélique Delanxant, directrice générale déléguée d'Ideal Wine, d'avoir été avec nous sur cette séquence. C'est la fin de Tout pour investir, mais ce n'est pas la fin de vous devant BFM Business. Sandra Gondouin nous a rejoint. Bonjour Sandra.
Bonjour Lorraine.
Le programme d'Avec vous qui démarre dans 4 minutes.
Il démarre dans 4 minutes et les JO, c'est dans 100 jours. Et c'est ça dont on va parler. Ben oui, je suis désolée, l'organisation des entreprises va s'en ressentir au niveau du personnel, au niveau des horaires, au niveau des transports, au niveau de toute votre organisation. Vous avez des questions à ce sujet, vous nous les posez avec vous à bfmbusiness.fr. Nos experts se sont préparés spécialement pour vous et pour ce sujet, pour répondre à toutes vos questions dans un instant.
Évidemment, à moins que vous viviez dans une cave et que vous soyez sourd, vous êtes au courant que les JO démarrent dans 100 jours, puisque tout le monde ne parle que de ça.
Ce n'est que le début.
Cher Amaury, vous ne parlerez pas de ça, mais de crypto et de Web3 dans BFM Crypto, le club, à 15h, 21h30 et n'importe quelle heure en podcast, le programme.
On en a déjà parlé dans cette émission, Lorraine, avec les événements malheureux géopolitiques de ce week-end. Le Bitcoin a un peu corrigé, donc pas mal de personnes disaient « Ah oui, mais non, en fait, le Bitcoin, c'est pas une valeur refuge, etc. L'or, c'est mieux. » Donc on va y voir plus clair, on va essayer de chiffrer tout ça, de débattre un peu et de voir les points communs entre l'or et le Bitcoin et éventuellement aussi les oppositions. Et on parlera pour finir de Bitcoin et de souveraineté. Voilà, on parle de tout ça à 15h.
Le programme, voilà, le Bitcoin valeur refuge, oui ou non? Réponse à 15h. On se quitte avec le Bitcoin qui se négocie autour de 63 364 dollars. Très bonne écoute sur BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.